Bonsoir à toutes et tous, vous êtes en direct sur Alternante, 98.1 FM à Nantes, 91 à Trignac-Saint-Nazaire. Vous êtes avec la Société d'Astronomie Nantes pour l'émission Pulsan en direct. On va vous parler d'astronomie et on va vous parler plus précisément aujourd'hui, une émission un peu consacrée exclusivement presque à la relativité d'échelle par notre ami et grand ami Laurent Nautal qui est venu faire une conférence. Donc on va vous parler de tout ça tout à l'heure. Et puis les petites chroniques habituelles comme le ciel du mois et les actus astro. Les petites dernières nouvelles, eh bien, on vous en reparlera de toute manière la semaine dans 15 jours. Dans 15 jours, il y a la dernière émission de l'année, en fait, de l'année 2001, l'année 2000-2001. Au niveau de Pulsan, puisque
la saison,
on va dire. Ouais. Puisque, en fait, Alternante se met en vacances, entre guillemets, tout le mois d'août. Donc, on suit Alternante, malgré que l'astronomie n'est jamais en vacances. Et donc, on vous reparlera, parce qu'il y a une observation publique organisée fin juillet.
Le 28, samedi le 28
avec le planétarium.
Derrière le planétarium, square Mazan, voilà. Pour la Lune, pour observer la Lune.
Donc, et observer tout simplement la Lune.
Voilà.
Donc, on va vous parler un peu de tout ça.
Et puis, là, le nouveau programme des conférences de la saison prochaine est prêt. Première conférence le 12 octobre, et on vous en reparlera aussi.
Oui, de toute manière, vous avez la liste des conférences
sur Internet.
Donc, que demande le peuple, comme on dit. Et puis voilà, on est tranquille, tout va bien, c'est Pulsan, et puis on va commencer maintenant.
Alors oui, alors on n'a pas de petites nouvelles aujourd'hui, hein, on les a annoncées. Alors on va tout de suite passer à notre première rubrique, parce que vous l'attendez tous, hein, le ciel du mois, et c'est Thierry qui va vous en parler. Donc le ciel du mois. Alors mon cher Thierry, qu'y a-t-il dans le ciel ce mois-ci? Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête?
Alors, en juillet, peut-être pas grand-chose, en août, si, les fameuses météorites, parce qu'on va vous faire un ciel du mois un peu des mois,
plus des mois.
Ouais. Donc, toujours observer, hein, la partie importante à observer, bien sûr, c'est le Mars, qui est très proche de la Terre.
Qui est en opposition.
Qui est en opposition, donc c'est-à-dire en fait que la distance Terre-Mars est au plus faible. Et en fait,
c'est
au plus faible actuellement.
Tous les 4 ans, voilà. Et puis on n'est pas encore au maximum, enfin au minimum plutôt, mais la prochaine fois, je crois, ou dans 2 fois.
Tout à fait. Donc en fait, faut observer Mars. Hein. C'est pas compliqué de la voir. Vous voyez une espèce d'étoile orangée dans le ciel, hein, et c'est Mars.
Ça brille, alors ça flamboie au sud. On voit que ça. Hein. C'est vraiment.
Alors, paradoxalement, ce qu'on pourrait croire, l'été, c'est pas la meilleure période pour faire de l'astronomie au niveau observation, puisqu'il y a 2 raisons. Déjà, les nuits sont beaucoup plus courtes. Alors, on est content parce qu'on peut manger plus tard ou etc. Mais par contre, au niveau astronomique, les nuits sont très courtes, puisqu'en fait, quand vous regardez, dès qu'il est 22h, 23h, le ciel n'est pas encore complètement noir. Et puis, dès que vous arrivez vers 5h du matin, le soleil commence à se lever. Bon, les lueurs commencent à apparaître. Donc, ça nous fait une nuit qui est très, très courte. Et en plus, il y a le problème de la température, puisqu'en été, on passe plein de réfait chaud.
Mais c'est déjà chargé en humidité.
Et en plus, chargé en humidité avec les orages, etc. Donc, quand il fait chaud, la nuit, il fait plus frais.
Même,
il y a des
changements
de température. Et en plus, il y a des gros problèmes de turbulence la nuit. Donc, c'est vrai que c'est pas un des meilleurs ciels, mais il y a quand même quelques petites choses à observer. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous avez la Lune, hein. Qui est observé. Au niveau des planètes, on va pas parler sur les 2 mois, parce qu'on va essayer de faire un peu les deux. Vous avez Mars, qui est toujours intéressante, sur tout le mois de juillet et tout le mois d'août. On a aussi d'impressionnants, mais bien sûr, les fameuses Perséides.
Autour du maximum le 10, la nuit du 10-11,
voilà.
Mais c'est statistique.
En fait, c'est le 12 à peu près, hein, qui
ça
se présente.
La veille ou le lendemain.
Donc en fait, les Perséides, c'est tout simplement une ancienne comète. On traverse les restes en fait d'une ancienne comète.
La comète Swift-Tuttle.
Voilà. Et en fait, on a l'impression que toutes les débris de cette comète viennent de l'amas de Persée, de la constellation de Persée. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça les Perséides. Alors, pour vous donner une idée, en fait, la Terre parcourt son orbite autour du Soleil à une vitesse qui est assez impressionnante, je ne connais plus par cœur.
100 000 km/h.
Merci Daniel. Et en fait, c'est un peu comme quand vous êtes dans votre voiture.
Quand vous voyez les flocons de neige.
Voilà, les flocons de neige, vous avez l'impression qu'ils viennent tous devant vous. Alors, vous savez très bien que la neige, elle ne vient pas de devant la voiture, elle vient d'un peu partout. Mais c'est en fait, c'est une histoire de vitesse et puis de
on a l'impression qu'ils viennent d'un point de fuite.
Voilà, d'ailleurs. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça les Perséides, parce que tous les objets, on a l'impression qu'ils viennent de l'amas de Persée, donc de Perséides. Donc le maximum, c'est le 12. Donc en fait, faut commencer en fait dès bientôt, hein, parce qu'en fait c'est début à peu près du 20 juillet jusqu'au à peu près 20 août, en sachant que le maximum, entre guillemets, c'est au moins c'est le milieu.
Oui, parce que les débris s'éparpillent au fur et à mesure d'une part des années et à chaque fois que la Terre passe dans les débris. Donc la dernière fois que la comète Swift-Tuttle est passée, c'était il y a quelques années. Donc elle reviendra, je ne sais plus quand, j'ai oublié la période, mais enfin, elle a laissé des débris, et d'année en année, ça s'éparpille, ça s'étale. Donc là, on a un maximum, mais on a une période d'observation des étoiles filantes qui est plus longue que d'habitude. Mais cela dit, c'est tout à fait aléatoire. Vous pouvez tout d'un coup avoir un super bolide, et la nuit d'après, n'avoir presque rien du tout. Alors maintenant, tout de même, statistiquement, vous avez plus de chances de voir des étoiles filantes autour du 10 août. Hein. Donc si vous voulez faire des vœux, c'est à ce moment-là.
Normalement, c'est le 12, là, cette année. Ça a à peu près un peu décalé par rapport à l'habitude. Apparemment, il dirait que les maximums, c'est 12, mais il faut vraiment regarder.
Franchement, on ne peut pas le prévoir à ce point-là. On a déjà eu le cas où on avait prévu un maximum une nuit, et ça s'est produit la nuit d'avant.
Ah, tout à fait. Mais tu vois, c'est impossible de savoir. Ils ne peuvent pas savoir exactement le nombre de poussière qu'il y a. Et même. La qualité ou en fait la luminosité, ça dépend de la consistance de la poussière,
sa grosseur essentiellement
et sa taille aussi, la consistance, et si elle s'effrite plus ou moins dans l'atmosphère. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc faut tourner autour d'août pour avoir les parties importantes. Donc observez toujours, il y a des rapprochements un peu de planètes, des rapprochements des planètes qui vont, comment pas dire, sur l'abysse, mais presque. Il y a notamment
des conjonctions,
ce qu'on appelle dans le langage technique, des conjonctions, c'est-à-dire que dimanche le 15, c'est-à-dire dimanche qui vient, au mois de juillet, il y a notamment Vénus et Saturne. Mais par contre, c'est un peu de bonheur, c'est à 7h TU, donc il va falloir se lever un peu.
7h TU, ça fait 9h du matin, ça.
Oui, donc un peu de bonheur pour les vacanciers. Non, 7h TU.
7h TU, ça fait... On a 2h... Oui, c'est ça, ça fait 9h du matin. Ouais,
ouais. Ça fait quand même de bonheur pour les vacanciers.
Oui, mais fait jour.
Et fait jour.
Qu'est-ce que c'est que ça,
tu peux voir, en fait, il suffit de savoir où est-ce qu'elle se trouve. Oui. Et en fait, il y a bien une conjonction entre Vénus et Saturne.
Enfin, on la voit quelques heures avant quand même.
Oui, il se rapproche. De manière, c'est le maximum. Hein.
C'est le maximum de conjonction.
Et puis autrement, pas mal de petites choses. Observer le ciel, on ne va pas parler de tout le ciel, en fait, de 2 mois en 5 minutes.
Qu'est-ce qu'on voit comme planète déjà, à part Mars? T'as parlé de Jupiter là un instant, mais au matin maintenant, c'est étoile du matin.
Saturne, pardon. Oui. Donc là, en fait, il y a Vénus.
Il y a Vénus comme étoile du matin. Alors Vénus, on peut la voir même quand il fait jour, en fait, hein, dans la clarté du soleil levant.
C'est ce qu'on appelle l'étoile du berger, oui.
Voilà, quand elle est le soir, mais maintenant elle est du matin. Mm-hmm. Donc en fait, il suffit de prendre une lunette. Des jumelles, c'est difficile de voir le croissant de Vénus, mais si vous prenez une lunette, vous verrez le croissant de Vénus. Parce qu'elle est encore proche du Soleil, donc on voit Vénus en croissant.
Puis bon, il y a Mercure qui est visible, mais bon, c'est une planète qui est assez dure à observer. Ouais, hein, très dure à observer. Il faut vraiment aller très très proche du Soleil. Donc,
si vous scrutez bien, vous verrez peut-être l'une des deux planètes que Laurent Nautal a prévues entre le Soleil et Mercure.
Ouais, il faut vraiment bien scruter, parce que pour l'instant, on ne les a toujours pas vues. Donc, et puis en mois d'août, mais notamment le rapprochement de Vénus et Jupiter. Bon, et simplement qu'ils se rapprochent. Donc c'est vrai que c'est toujours des moments assez intéressants pour les gens qui veulent faire de la photographie, puisque c'est des astres qui sont assez lumineux. Donc c'est vrai que qu'au moment où ils se rapprochent, vous pouvez les avoir dans le même cadre. Et puis, il y a pas mal de petites choses. Bon, bien sûr, on va parler des planètes un peu plus difficiles à observer, comme Uranus, qui est une planète, il faut un gros télescope.
Il faut
vraiment bien savoir la pointer, puisqu'elle est invisible à l'œil nu, puisque les anciens ne connaissaient que 5 planètes. Mercure, Vénus, j'occulte la Terre, bien sûr. Ouais. Mars, Saturne et Jupiter. Donc il faut un peu... Et savoir vraiment où ça se trouve. Donc de manière... nous, on va observer au mois de juillet. Il y a pas mal d'observations qui sont prévues, notamment au camping du Collet. Hein.
Alors, il y a le camping du Collet, mais ça, c'est dans le cadre d'une observation.
Mais bon, c'est pour les campeurs. Hein,
semi-privé, oui,
c'est pour les gens du camping. Hein,
je ne connais pas le nom du camping, d'ailleurs, je sais y aller. Voilà, c'est au Collet, c'est en baie de Bourgneuf.
Oui, tout à fait.
Puis, ceux qui veulent
venir, c'est pour les campeurs qui voudront y aller. Hein,
en fait. Néerlandais.
Si vous ne savez pas où aller camper, vous allez au Collet, et puis il y aura des observations d'astronomie présentées par la Société d'Astronomie de Nantes.
Donc, la prochaine, c'est le vendredi 27.
Oh, je ne savais même pas s'il n'y en a pas une le 21.
Non,
27.
On a déterminé les dates, c'est 20, le 27, et puis juste avant, le lendemain, c'est le 28, c'est derrière le square moison. Autrement, la Lune, elle suit son petit bonhomme de chemin, on va dire.
Tout à fait, n'oubliez pas que le plus intéressant, c'est surtout, paradoxalement, quand la Lune est en croissant et non pas en pleine Lune, à observer. Hein. Même si vous avez une paire de jumelles, observez-la, il faut toujours s'en servir
Vous n'avez qu'une jumelle, ça suffira.
Tout à fait. Donc l'important qu'il faut mémoriser pour ces mois-ci, c'est Mars. C'est vraiment l'astre à ne pas louper, puisqu'en fait, il se rapproche, donc il est visible avec des petits instruments. on arrive à voir le diamètre de Mars avec des très faibles instruments, alors qu'autrement, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Les autres planètes, entre guillemets, c'est périodique, on les voit en presque toute l'année, mais c'est vraiment la chose importante à observer, c'est Mars. Il y a notamment une équipe de la SAN qui est partie observer dans les Alpes. Puis pour le rapprochement de Mars,
ils sont revenus.
Hein. Ils sont revenus d'ailleurs. Ils sont revenus, on les a eus en direct il y a 15 jours. Ils étaient à 3000 mètres. Donc actuellement, voilà, c'était ce qu'on pouvait dire. On pourrait faire 3 heures sur le ciel du mois, hein, parce qu'il y a toujours des astres observés. Prenez à la rigueur soit des petites revues, ou alors vous regardez le ciel et puis vous essayez d'apprendre le ciel.
Venez acheter un mini-ciel. Voilà, société, on vous expliquera comment vous repérer. On a aussi les autoroutes du ciel pour ceux qui veulent aller plus vite.
Oui, à la place.
Ouais. Ah, oui, tout à fait. Merci, mon cher Thierry. Donc, merci pour cette rubrique, le ciel du mois, ce ciel du mois de juillet et août.
Juillet et août.
Alors, place.
Donc maintenant, on va vous parler, en fait, après le ciel du mois, on va changer complètement, on ne va pas parler du ciel, ou plutôt du ciel au sens très large du terme, on va vous parler, en fait, de la relativité d'échelle et plutôt de l'univers dans son ensemble, ou plutôt comment il s'organise. Donc là, c'est Daniel Worling qui va vous présenter un peu notre conférencier dont l'interview a été réalisée le soir de la conférence à Alternantes.
Par toi ?
Non, par Michel Sourget et toi. Tu te rappelles plus déjà ?
Non.
Oh là là, à l'âge qu'il a, incroyable. Notre pauvre président commence à perdre déjà la mémoire.
Si, c'est vrai, je me rappelle.
Donc en fait, ça a été réalisé lors du magazine Domaine Sensible. Donc en fait, Alternantes nous a prêté les sons, comme on dit, puis on va vous rediffuser, je ne vais pas dire les meilleurs moments, mais presque l'intégralité de l'émission. Donc vous entendrez une voix que vous connaissez peut-être un peu moins pour les gens qui suivent uniquement Pulsan, ce qui n'est pas bien à faire. Il faut suivre aussi les autres émissions, c'est la voix de Michel Sourget. Oui. Et puis vous aurez la voix de Laurent Nautal et puis celle de Denis Worling.
Michel, il faut le souligner, Michel Sourget d'Alternante, qui nous suit depuis des années. C'est comme ça d'ailleurs.
Même.
Oui, voilà, même les premières années, il était fidèle à chaque conférence. On finissait par ne connaître que lui. C'était le journaliste qui venait régulièrement, qui venait interviewer le conférencier. Et à la fin, on a décidé de faire venir les conférenciers dans les studios d'Alternante, peu à peu. Et c'est comme ça un petit peu que l'idée d'ailleurs de notre émission a germé. Hein. C'est un peu pour la petite histoire. Et il faut savoir que Michel est passionné d'astronomie et c'est pour ça qu'il avait beaucoup de plaisir à écouter ses conférences et à interviewer ces gens un peu exceptionnels, un petit peu en marge, que sont les astronomes, les astrophysiciens. Alors Laurent Nautal, c'est parmi les gens exceptionnel ou en marge, c'est encore quelqu'un qui est un marginal parmi les marginaux. Alors ça ne veut pas dire qu'il est fou, au contraire, c'est un théoricien. Alors déjà, un théoricien, c'est un petit peu particulier. Vous avez deux catégories de théoriciens, vous avez ceux qui ressassent des formules et qui sont brillants, qui sont de brillants virtuoses, de la science presse-bouton un peu, et vous avez de vrais chercheurs, hein, qui sont tout le temps en train de remanier les choses, et c'est Laurent Nautal fait partie de cela. Et son domaine théorique, évidemment, c'est d'essayer de comprendre l'univers, et pas d'une façon spectaculaire en inventant des univers totalement fabuleux, un peu mythiques, et puis un petit peu, je dirais, flatteurs pour l'esprit, avec de grandes notions. Non, c'est véritablement essayer d'aller au fond des choses, et notamment d'essayer de relier la physique de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, qui pour l'instant sont régis par deux domaines qui sont l'infiniment grand, c'est la relativité, c'est la physique de Newton, la gravitation, mais c'est depuis Einstein, surtout Einstein et Poincaré, c'est la relativité. Et vous avez d'autre part le domaine de l'infiniment petit, qui est la physique, la mécanique quantique, comme on dit, qui là, c'est plutôt une physique de la mesure, c'est plutôt une, on va pas dire des recettes de cuisine, mais c'est un petit peu bricolé, si on veut. En tout cas, c'est une physique qui est extrêmement proche du phénomène et qui souffre cruellement d'un manque de théorie unificatrice.
Donc, Laurent Nautal, quand est-ce qu'il est venu, en fait ?
Alors, il était venu le 21 mars, le jour du printemps, au Bretagne. Et je vous présente en deux mots cette relativité d'échelle, juste pour situer les choses, puisque l'idée de Laurent Nautal, c'est de relier les deux physiques, non pas par un artifice mathématique, mais en essayant de faire coller l'idée de relativité, la notion de relativité, à l'appliquer au changement d'échelle, et grâce à cela, de relier les deux en donnant à l'espace-temps une structure fractale. Alors, on reviendra un petit peu sur des petites choses au fur et à mesure de cette interview. Donc, place à Laurent Nautal et à l'interview.
On ouvre un nouveau chapitre. Juste avant de présenter le thème de votre conférence, Laurent Nautal, je souhaiterais un mot sur un livre déjà ancien à l'échelle du temps bibliographique. Je parlais des arbres de l'évolution, livre paru l'année dernière aux éditions Hachette. Un livre qui réunit trois compétences, un astrophysicien, un paléontologue, Jean Chaline, un économiste, Pierre Groux, pour illustrer qu'en matière d'analyse des différents domaines, il y a un modèle de bidon ou qui est plaqué, ou on met en évidence des points communs dans ces différentes disciplines.
Bien, ce qu'on voulait faire, c'était effectivement d'essayer de pousser plus loin l'analyse dans trois disciplines qui semblent séparées, mais dans lesquelles en fait il y a un certain nombre de problèmes non résolus. Donc la question pour nous, c'était pas d'aller reprendre les choses déjà bien comprises, mais c'était d'aller regarder ces problèmes non résolus et de voir si certains concepts nouveaux, ils sont plus si nouveaux que ça, puisque c'est des concepts qui ont maintenant commencé à bien se développer, en particulier dans le domaine de la physique, de la biologie, en particulier ce concept de fractal, si le fait d'introduire les lois fractales, les équations différentielles permettant de décrire ces lois, ne pouvait pas apporter des choses nouvelles dans ces disciplines, et montrer effectivement non pas de l'universalité, parce que c'est un mot peut-être un peu trop large, mais des points communs et des solutions communes à partir du moment où les structures abordées correspondent en fait à des structures universelles, enfin à des contraintes physiques. Ce qu'on a plutôt mis en évidence, si vous voulez, c'est le fait que aussi bien dans le domaine de l'évolution des espèces que dans le domaine de l'histoire économique, il y a des contraintes physiques qui viennent tout simplement du fait que l'évolution se passe dans l'espace, dans le temps, fabrique des formes biologiques qui sont contraintes. Et ces contraintes physiques impliquent effectivement des structures. C'est toujours le hasard, mais le hasard se passe dans une structure et on peut aller décrire en partie cette structure.
Daniel ?
Il n'y a pas non plus, en dehors des contraintes qui seraient communes à différents systèmes, dont la logique profonde, ou du moins le croit-on, hein, l'une chimique, l'autre qui répond à l'histoire et de ça, dont la logique profonde peut-être être distincte. Est-ce qu'il n'y a pas, en dehors de ces contraintes communes, est-ce qu'il n'y a pas des contraintes des systèmes eux-mêmes qui, à partir d'un certain degré de croissance ou d'histoire, peuvent eux-mêmes engendrer un certain nombre de comportements que l'on va retrouver chez tous les systèmes?
Non, c'est sans doute ça. C'est-à-dire que ce sont des structures auto-générées, sans doute. C'est-à-dire que c'est le système lui-même qui, par son évolution, génère la structure. Absolument. C'est des phénomènes critiques. Hein. Ce qu'on a utilisé, ce sont les lois physiques de ce qu'on appelle les phénomènes critiques.
C'est une espèce de modélisation.
Oui, mais c'est mieux que de la modélisation. C'est vraiment des équations qu'on est capable d'écrire, pas seulement comme un modèle descriptif, mais pas à partir d'une compréhension profonde. C'est dû en particulier à des gens comme Kadanoff, comme Kenneth Wilson. Wilson a eu le prix Nobel sur ces phénomènes critiques et ce qu'on appelle les équations du groupe de renormalisation appliquées à ces phénomènes critiques. Et c'est ces méthodes-là qu'on a appliquées dans le domaine du vivant et de l'histoire économique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est précisément de l'appliquer à des crises, mais non pas qui se passent du point de vue dans un espace déphase, du point de vue de la température, comme on le fait en général en physique, mais tout simplement aux crises dans le temps.
Oui, parce que c'est ça qui est surprenant, puisqu'en fait, là, quand vous parlez d'un système, par exemple l'évolution des espèces, c'est vrai que c'est un système qui n'existe que dans le temps, qui s'inscrit dans la durée. Et c'est dans cette durée que vous voyez, vous, des structures, c'est-à-dire des moments critiques.
Oui, et surtout, ce que je veux dire, c'est que le terme de phénomène critique en physique, c'est beaucoup appliqué, par exemple, aux transitions de phase. Les transitions de phase, c'est par exemple la transformation de l'eau en glace quand la température varie. Et on sait déjà depuis longtemps qu'il y a, il y a des lois caractéristiques, et en particulier que les différents phénomènes physiques qui décrivent les propriétés de l'eau ou de la glace autour de ce point critique qui est la température, qui est le 0 degré Celsius, eh bien ne dépendent que de la différence de température entre la température et le zéro. Et la température critique. Pas de la température en soi, mais de la différence.
C'est ce qui pourrait expliquer les phénomènes de surfusion, par exemple.
Voilà, c'est exactement ça, c'est ce genre de choses-là. Et ce mot phénomène critique est utilisé justement pour décrire des transitions de phase comme ça, où c'est la température qui varie. Mais c'est seulement, à ma connaissance, au moins depuis 1995, que c'est Didier Sornette et ses collaborateurs, le premier qui a eu cette idée-là, d'aller utiliser les lois des phénomènes critiques pour décrire, bizarrement, la chose qu'on appelle crise du point de vue du sens commun. Quand on parle de crise du point de vue du sens commun, c'est une crise qui se passe dans le temps. Là, il y a eu un événement, tout allait bien, puis d'un seul coup, ça va mal, ou l'inverse. Il peut y avoir des crises positives, c'est pas catastrophiste ce qu'on raconte. C'est crise au sens général, un changement, ça change brusquement, il y a une espèce d'accélération du comportement, puis après on sort de cette crise. Eh bien, depuis 1995, ces lois qui étaient applicables à des phénomènes critiques dans d'autres domaines commencent à être appliquées à des crises qui se passent sous nos yeux dans le temps, qui sont, par exemple, des sauts majeurs évolutifs, qui sont des crises économiques, au niveau, soit des indices boursiers, comme l'a fait Sornette, soit dans ce qu'on a fait nous, dans carrément la description à grande échelle du rythme crise, non crise, mais depuis le néolithique. On s'est placé à grande échelle.
Ma question était plus simple. Hein. Ce que je demandais, c'est au fond, à partir du moment où on a décidé, où on a envie de voir des fractales partout, on en voit partout. Dans toutes les sciences, dans toutes
les choses. C'est une question piège.
Non, c'est pas du tout une question de piège. Je veux dire, le mot fractal, le concept de fractal est un concept très, très clair, très bien défini, qui est rigoureux mathématiquement. Et donc, on ne peut pas inventer un fractal là où il n'y a pas de fractal. Si, pour savoir si quelque chose est fractal, eh ben, il faut faire des mesures. Il faut, par exemple, aller regarder le système à des résolutions différentes, avec une dynamique suffisante. C'est-à-dire, il ne suffit pas de le regarder à 1 cm puis à 1,5 cm. Il faut regarder 1 cm, 1 mm, 1 dixième de millimètre, 1 centième de millimètre, au moins facteur 100 ou 1000. Vérifier que les différentes propriétés de l'objet dépendent de l'échelle où on l'a vérifié. Caractériser mathématiquement, avec des dimensions fractales, des dimensions de Hausdorff, des dimensions de lacunarité, etc., les propriétés de cet objet-là, et décider à ce moment-là, il est fractal ou il n'est pas fractal. C'est quelque chose de très rigoureux.
En plus, ce n'est pas ce qu'on appelle une théorie totalitaire, entre guillemets. Ça existe aussi en science, ou ce qu'on appelle aussi des dogmes, quand c'est des domaines plus restreints, où effectivement, le fait de vouloir voir quelque chose, on finit par le voir, c'est ce qu'on appelle les yeux de la foi en science. Mais il y a ça, il y a ce phénomène-là. Mais je crois que d'une part, ça ne serait pas le cas de quelqu'un comme Laurent Nautal, et je crois d'autre part que là, on parle d'un outil et non pas d'une théorie. Donc ce sont encore deux domaines différents. Or l'outil, il faut que ça colle avec une réalité, hein, c'est ce que vous venez de dire.
Tout à fait. Les fractales en tant qu'outils sont utilisés de plus en plus dans un très grand nombre de domaines, avec des résultats efficaces, effectifs. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les personnes qui, sur Internet, sont capables maintenant de transmettre des images, et puis ça ne marche que parce qu'il y a des méthodes de compression fractale. C'est dans la vie de tous les jours qu'ils sont maintenant. Hein. C'est pas seulement... C'est vrai que je pense que la confusion vient peut-être du fait que certaines personnes ont aimé ce mot, aimé ce concept, et se sont mis à l'utiliser peut-être d'une manière plus poétique, ce qui n'est pas condamnable en soi, mais le fait qu'on puisse utiliser le mot fractal comme poétique, Mandelbrot lui-même a montré à quel point, justement, ça peut être très beau, les fractales, ça peut être artistique. Ça n'empêche pas que derrière ça, il y a bel et bien un concept mathématique très précis.
C'est très beau, parce que j'ai souvenir la première fois que nous sommes rencontrés, hein, vous évoquiez cette idée que vous viviez sur des fractales. Hein, c'était votre schéma de pensée pour les comprendre. Donc c'est très poétique aussi.
Vous avez même fait une introduction fractale, n'est-ce pas, musicale. Parce que je reviens un petit peu à la musique une seconde, puisque Laurent Nautal nous parlait tout à l'heure des rythmes qu'il mettait en évidence lorsqu'il examine l'évolution des espèces avec son regard théorique. Et quand on parle de rythme, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une structure dans le temps? Et c'est une architecture, on parle bien d'architecture pour les œuvres musicales. Donc en fait, on ramène à ce qui est temporel à quelque chose de spatial, puisqu'au fond, c'est un petit peu la même chose, je dirais.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'habitude du physicien, et en particulier du physicien relativiste, de travailler dans l'espace-temps, permet de concevoir peut-être plus facilement l'idée d'une structure dans le temps. Effectivement, à force de penser dans l'espace-temps, que la structure soit dans l'espace ou dans le temps, c'est pareil. Je me suis aperçu que pour des personnes qui sont dans d'autres sciences, c'est pas forcément aussi évident, effectivement. Ça paraissait un concept nouveau de dire qu'il y a une structure dans le temps. Mais en fait,
c'est vous savez que ce que j'ai appris aussi autrefois, c'est que quand Bach avait composé ses suites pour violon seul, en fait, l'idée de certains passages, c'est effectivement, vous savez, le violon fait qu'un son à la fois, enfin, en principe, hein, et en fait, en faisant des sons qui durent comme ça, qui sont réverbérés, les différents sons qu'on fait successivement finissent par se mélanger et produire des accords verticaux, comme on dit. Hein, Et en fait, on recrée bien une structure architecturale.
Oui, mais Bach, c'est le top du top dans le genre.
C'est un peu le principe musical de travailler effectivement dans une échelle temporelle.
Il a écrit des choses qui semblent impossibles à faire.
Sauf avec une pensée fractale.
Moi, je n'ai pas...
Oui, alors vous venez d'entendre la première partie de cette interview de Laurent Nothal qui a été réalisée dans ses studios d'alternante. Alors juste un mot parce que je vous avais parlé en début de l'unification de la théorie physique par Nothal et là il est parti un peu Laurent Nothal.
C'est juste après en fait, c'est vrai que Michel Surgeon a lancé la partie son unification et tout ça. Et en fait, c'est après qu'on aborde plus le sujet de la conférence.
Absolument, hein, j'en suis. Je savais pas que ça venait juste après, mais je savais que c'était abordé. Simplement, là, c'est intéressant parce que Laurent Nothal parle de structure et de structure temporelle ou spatio-temporelle. Pour le physicien, c'est un peu pareil. Alors, ça, c'est une chose. Donc, l'apparition spontanée de structure et de phases, de moments critiques, on a ça dans l'évolution, etc. Mais surtout la notion de fractal qu'on voit transférer de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Alors qu'est-ce que c'est que ces... Bon, les fractales, ça a l'air artificiel. En réalité, si on regarde bien, les structures qu'on voit à l'échelle microscopique, par exemple l'atome, donc l'atome de Bohr, par exemple, c'est un noyau des électrons comme des planètes autour du Soleil, et on retrouve ça à macro-échelle avec le système solaire, on retrouve ça de nouveau avec les corps qui tournent les uns autour des autres. En fait, on a l'impression que le monde se répète un peu, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est ça l'idée force des fractales. Donc c'est pas du tout un artifice de calcul, c'est vraiment...
Faut pas non plus focaliser sur la partie de Mandelbrot, parce que tout le monde connaît le fractal de Mandelbrot, voilà. Celui qui est utilisé beaucoup en visuel, qui a une particularité, c'est qu'il est identique à son propre image. Alors que, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous zoomez, vous avez le même fractal qui se respecte à l'infini.
Voilà, il y a différents types de fractales.
Alors que les fractales, on parle en général, qui sont en fait c'est plus générés, oui. Sont en fait des fractales, en fait, c'est des objets. Quand vous zoomez dessus, c'est pas la même, mais il y a une nouvelle structure qui apparaît. Et en fait, c'est un peu le principe, comme il a expliqué, Laurent Nothal, il l'explique pas là, mais il l'a expliqué dans sa conférence, au niveau des côtes bretonnes. Si vous mesurez, ils essayaient de mesurer le périmètre des côtes bretonnes sur une carte. Sur une carte, vous mesurez les rigueurs avec votre centimètre, et puis après, vous appliquez l'échelle, ça vous donne une valeur. Après, si vous augmentez la définition de la carte, vous avez encore une autre valeur qui va être encore plus précise, mais quasiment plus importante, puisqu'en fait, vous aurez tous les recoins. Et au pire, vous allez avec votre double décimètre mesurer tous les cailloux, etc. Vous aurez quelque chose quasiment presque d'infini. Si vous allez, même jusqu'à après la rigueur, avec un microscope, mesurer compter le nombre d'atomes qu'il y a autour de la... Donc en fait, c'est pas la même structure, simplement c'est qu'il y a une nouvelle structure qui apparaît et c'est de plus en plus, entre guillemets, complexe.
Alors ce qu'il a aussi dit et qu'il le répétera, je pense, c'est qu'il va décrire des structures qui apparaissent spontanément. Hein, l'univers que l'on croyait aller vers l'homogène, le mélange, l'état thermodynamique, la mort thermique, etc. En fait, l'univers évolue vers l'hétérogène, c'est-à-dire la formation spontanée de structures. On voit des répartitions de vitesse pour les galaxies qui sont pas homogènes. On voit plein de choses comme ça.
Donc, c'est un sacré novateur, ça.
C'est extraordinairement puissant et c'est intelligent parce que ça explique à la fois des structures inanimées, les galaxies, les corps célestes, et aussi des structures vivantes qui répondent à ces lois-là. Alors on va l'écouter hein, pour la suite, et on commentera après. Alors le travail du théoricien, ça n'est pas de la simple, ce n'est pas du tout d'ailleurs, pourrait-on dire, de la virtuosité autour des formules mathématiques ou autres modélisations ou autres formulations. C'est un travail de fond, c'est une réflexion profonde, un regard nouveau sur les choses et le monde. Et c'est l'objet de ma première question, parce que avant d'aborder le fond même de cette théorie, c'est de demander à Laurent Nothal comment lui il perçoit le travail du théoricien, hein, en quoi ça consiste ce travail, Laurent.
Oui, je vais vous parler de ma propre pratique, parce que je pense que ça dépend un petit peu des théoriciens. Là, il n'y a pas de solution unique. Il y a certains théoriciens qui vont passer beaucoup de temps, par exemple, à faire des simulations numériques, enfin, qui vont privilégier, par exemple, le fait d'essayer de faire des codes numériques sur des gros ordinateurs pour essayer de trouver des comportements comme ça, par exemple, sur des échelles de temps qui sont impossible à acquérir avec d'autres méthodes. Il y a certains théoriciens qui seront plutôt dominés par les mathématiques. Il y a des théoriciens, si vous voulez, qui vont essayer de plus développer l'esprit physique, certains qui vont essayer de s'appuyer sur les structures mathématiques. Certains sont plus des physiciens-mathématiciens, certains sont plutôt des mathématiciens-physiciens, je dirais. Personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est d'abord de bien essayer de faire de la théorie, pas pour le plaisir de faire de la théorie, mais pour expliquer des choses. Donc à la base, il y a des problèmes à résoudre.
J'ai juste un petit mot à propos de la mathématicien, physicien. C'est parce que vous êtes astrophysicien, bien sûr. Mais quand on voit le travail des chimistes comme Lavoisier, effectivement, il n'y a pas beaucoup là-dedans de mathématiques, mais il y a surtout une très profonde réflexion. Et lorsqu'on inverse la logique des choses par rapport à ce qui régnait dans le temps, et c'est un petit peu, c'est le même travail. Et c'est je crois même dans votre domaine, Laurent, qui est celui effectivement de la haute physique, de la haute mathématique. Mais malgré tout, le plus gros du travail, si je puis dire, et le plus important, c'est d'avoir un regard nouveau sur les choses, hein. C'est peut-être au niveau du concept.
Exactement, je pense que, enfin, vous l'avez dit comme ça, mais quelque part, il n'y a pas de haute physique et de haute mathématique. C'est-à-dire que tous les pans de la physique sont nécessaires, et chaque fois qu'il y a des espèces de, comment dire, de jugement de valeur, de comparaison entre physiciens, je pense que c'est illégitime. Vous avez cité Lavoisier, effectivement, mais on peut par exemple comparer Faraday et Maxwell. Faraday était essentiellement expérimentateur, il est vu comme physicien expérimentateur, mais c'était aussi un théoricien au sens où c'est lui qui a conçu l'idée d'unification entre électricité et magnétisme. Bon, après, Ampère, Oersted, mais vraiment Faraday avait presque tout fait.
Et ça n'était pas déductible d'équation.
Hein, mais il n'avait pas les moyens, c'était pas effectivement, comment dire, il n'avait pas les moyens mathématiques. De mettre ça en œuvre. C'est Maxwell qui a repris cette idée, qui lui était un mathématicien extraordinaire en plus du reste, et qui a effectivement écrit ces équations de Maxwell qui sont maintenant à la base de l'électromagnétisme. Mais l'idée fondamentale, tous les éléments étaient déjà là chez Faraday. Alors, dans ce que j'essaie de faire, il s'agit effectivement de bien. C'est un peu garder les pieds dans la boue et puis en même temps la tête dans les concepts et dans les. Essayer de raccrocher en fait les données d'observation et d'expérience à des principes premiers. Donc avoir vraiment toute la chaîne. Pas seulement, vous voyez, à des équations, mais aller jusqu'au niveau des principes premiers. Parce que personnellement, je pense que c'est ça effectivement le travail du théoricien. S'appuyer sur des principes premiers, développer ces principes premiers en. Les traduire mathématiquement, mais à la base, ce sont des principes philosophiques
qui deviennent
des principes physiques, voilà. Qui ensuite se traduisent en axiomes mathématiques, qui ensuite, là, il y a une espèce d'auto-développement des mathématiques qui font qu'il y a une espèce d'efficacité, c'est notre outil. De même qu'un bûcheron qui voudrait couper un arbre avec les mains, il ne serait pas très efficace. Si jamais il découvre la hache, il n'a pas besoin d'être très fort avec sa hache, il peut couper l'arbre. Et puis ensuite, un gringalet qui a découvert la tronçonneuse électrique, eh ben, il le fait encore plus facilement. Donc c'est ça l'idée. On n'est pas des personnes qui travaillent comme ça en l'air. On travaille avec un outil. Il s'agit essentiellement de construire l'outil.
Absolument. On peut poursuivre un peu la comparaison avec la musique. On a effectivement l'idée musicale n'est pas contenue dans le solfège. Le solfège, par contre, et l'écriture musicale, d'abord est nécessaire à l'expression musicale, mais elle peut elle-même, quelquefois, générer l'idée, mais elle ne génère l'idée toujours que chez ceux qui en ont. Donc on retrouve un peu ce dialogue entre l'outil et la physique et l'idée. Mais alors là, il y a un passage très, très important dans toute cette interview, là, c'est sur le travail du théoricien. Et ça nous a semblé important, je vois mon cher Thierry que tu as retenu ce passage.
Tout à fait.
Parce que c'est fondamental, hein, c'est beaucoup de gens s'imaginent que les sciences en général, c'est très difficile, mais ça on confirme, hein, c'est très difficile.
Ça c'est sûr.
Mais pas pour la raison qu'on pense. Beaucoup de gens s'imaginent le physicien avec des formules partout, en train de malaxer des mathématiques d'un très grand niveau, etc. Mais c'est pas ça la grande difficulté en science. Comme l'a rappelé Nottal, en fait, ça n'est qu'un outil. C'est un outil qui vient après. C'est un outil qui vient finalement sur un terrain fécond et qui permet aux scientifiques d'aller plus vite. Et les ordinateurs, en final, aussi nous aident à faire des calculs. Mais
on va vérifier.
C'est pas vraiment la grande difficulté, ça, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est de faire ce qu'a fait Lavoisier, finalement, en chimie. Toutes ces grandes révolutions scientifiques ne sont pas venues parce qu'on a mis bout à bout des tas de formules extrêmement compliquées, mais parce que quelqu'un à essayer de repenser, de reconstruire les connaissances et de les construire d'une manière originale et avec une profonde réflexion. C'est un peu un message qu'on peut adresser à nous les amateurs. D'ailleurs, Lavoisier était un amateur puisqu'il tout était contrôleur des impôts. C'est tout juste si Einstein n'était pas un amateur, un très grand sans doute, mais finalement il n'était pas, au début en tout cas, il n'était pas chercheur physicien. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à raconter, c'est l'objet d'une autre émission. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est la science, c'est avant tout, il faut beaucoup réfléchir, c'est approfondir des notions qui sont quelquefois, Laurent Nautal l'a dit, de la physique qui n'est pas forcément de la haute physique. Hein, par exemple, la chute des corps, finalement la gravitation universelle, la théorie de Newton, tout cela c'est venu d'un phénomène très banal qui est la chute des corps. Et ça, nous le vivons tous les jours et pourtant il a fallu un Galilée, un Newton pour mettre ça, conceptualiser ça, et pas du tout avec des mathématiques.
Au contraire, faut avoir l'idée de l'explication déjà.
Voilà, il faut avoir l'idée, avoir l'esprit, la tournure scientifique, et ça c'est vraiment la chose la plus difficile. C'est une des difficultés de la relativité, c'est de repenser le monde autrement. Alors nous allons passer à la... Je vois qu'il y a plus de...
C'est après, on fait c'est une petite après. Pause là.
On fait une petite pause musicale.
Là, voilà, on a eu deux parties un peu dures. Alors, donc c'est là en fait pause. Que la suite... on va vraiment aborder, commencer la partie de la conférence.
On va rentrer dans le vif du sujet.
Voilà, parce que là, en fait, la première partie, c'était bien, en fait, le travail en fait de Laurent Nautal sur avec ces deux autres scientifiques là. Et puis, en fait,
Chaline et voilà. l'économiste voilà.
Et puis l'économiste. Donc là, la deuxième partie d'interview, c'était vraiment sur le travail du théoricien et puis en fait la différence entre un vrai théoricien et puis qu'on pourrait appeler un tripoteur de formules. Quelqu'un qui essaye de...
Un virtuose. Un interprète, au fond. Beaucoup de scientifiques sont des interprètes. On va en faire une comparaison musicale.
Est très bonne. Est
excellente parce que c'est la même chose. Et le travail du musicien, c'est pareil. Les plus grands compositeurs musiciens, qu'on pense à Chopin ou Mozart ou des gens comme ça, ce n'étaient pas les plus grands cracks en solfège.
Tout à fait.
Les grands cracks en solfège, c'était hors du bois. C'est des gens comme ça que personne ne connaît. Qui ont fait des compositions, qui en ont fait quelquefois 200 œuvres dans leur vie, et bien malgré tout, vous voyez, le génie, c'est autre chose.
Comme tu le rajoutais, hein, les cours de solfège, ça apprend pas à composer, hein, ça apprend à en jouer de la musique. Donc, c'est même pratique, les outils en astronomie au sens large, les outils mathématiques, c'est juste un outil. Hein,
ça rend pas génial, mais ça permet au génie de s'exprimer.
Tout à fait. C'était la première partie de du Soleil donne de Laurent Voulzy.
Parce qu'il y a deux parties.
Oui, il y a deux parties.
C'est effroyable.
Il faut dire avec Daniel qui fait le singe dans la radio. C'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra parce que franchement.
J'étais déguisé en Mickey.
Voilà.
Alors je ne supporte pas les chansons. Moi, c'est plus fort que moi.
C'est Daniel. Mais
c'était sans doute très bien.
Ouais, c'est très bien. C'était du Voulzy, hein, pour ceux qui
aiment. Mais beaucoup de chansons. 90% restent sur la même tonalité tout le temps. Alors qu'avec Bach, en deux mesures, on a déjà tellement voyagé. C'est comme l'espace. Une fois que tu as goûté au grand froid des grands espaces et que tu es allé sur la planète Mars, t'as plus envie d'aller dans le pré du voisin, quoi.
Tout à fait. Vous êtes toujours sur Alternante avec la Société de l'Astronomie Nantes. On parle de musique en direct, comme on dit, ça s'entend aussi.
Et puis nous sommes là en juillet en direct pendant que tout le monde
est en train de dormir.
Pendant qu'ils glandent.
Voilà, ils sont partis en vacances.
Inadmissible, ça. Non,
mais c'est ce qu'ils sont partis faire dans les autres pays.
Donc le système biologique, on l'apprendra, il se porte d'autant mieux qu'on le sollicite.
Tout à fait. Voilà. Ça sert à rien de le faire reposer.
Absolument pas. Le repos est nuisible, le repos. Oui, quand on est en alternance, quand on est en phase avec en résonance avec les rythmes biologiques.
Tout à fait. Voilà. Donc là, on ne parle pas exactement de biologie, quoique, en fait, on parle d'univers aujourd'hui.
Quoique, il faut savoir que Laurent Nautal va bientôt se mettre à la biologie.
Hein. Oui, parce qu'en fait, on a commencé déjà à parler de notre ami Laurent Nautal, qui a fait une conférence le 21 mars. Et en fait, il a fait une interview, l'interview a été réalisée dans ce studio même, avec notre ami Michel Sourget, d'Alternante. Et en fait, on est en train de passer la totalité de l'interview.
Absolument, parce que ça vaut le coup.
Parce que ça vaut le coup, et pour en faire profiter les gens qui s'occupent plus de l'astronomie, parce qu'en fait, cette interview était diffusée dans le domaine sensible, le magazine d'Alternante.
Oui, comme autrefois, quand on faisait venir des conférenciers, effectivement, Alternante les invitait à cette antenne en direct. avant la conférence, et on a eu comme ça, comme ils disent, des sons très très intéressants, une collection magnifique. Et là, Laurent Nautal, c'est un peu la mascotte à la fois de la Société d'Astronomie et de l'Alternante. Parce qu'il a subjugué, et Michel, je me souviens, avait laissé Laurent Nautal parler pendant une heure, sans interruption, de l'espace-temps fractal, de ses théories sur la structure de l'univers, etc. Alors là, on a entendu dans les deux parties précédentes, d'une part, la première partie, c'était la structuration, l'auto-structuration spontanée de la matière, hein, qui répond à des contraintes qui sont des contraintes physiques, où par exemple la gravitation est une grande contrainte, parce que notamment la conférence s'appelait morphogénèse gravitationnelle. Alors je regrette un peu ce titre, finalement les gens n'ont pas bien compris, ils se demandaient si ça parlait d'embryologie, des embryons, des fœtus, etc., la morphogénèse. En fait, c'est la synthèse la morphogénèse, c'est l'apparition spontanée de structures, de formes, hein, que ce soit dans la matière inanimée ou la matière vivante. Et on va voir que c'est...
Les gens feraient un peu plus de grec, hein, ils auraient compris le titre.
Voilà, c'est dommage qu'on laisse tomber toutes ces langues pour faire des langues mortes comme l'anglais.
Pour ceux qui se demandent à quoi sert le grec, le latin, on peut se poser des questions. Mais le grec, ça vous sert à comprendre l'astronomie et la science au sens large. Ouais. Et même le latin, ça vous explique comment...
De toute façon, ça forme l'esprit, c'est comme la musique. Même si on ne devient pas musicien, c'est fou tout ce qu'on apprend. Alors qu'on les voit courir bêtement dans les parcs le matin.
Mieux apprendre le grec et le latin que d'apprendre l'anglais, parce que ça sert strictement à rien.
C'est tout aussi suant, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors revenons donc à Laurent Nautal, qu'on vous résume, on représente rapidement, donc c'est un astrophysicien, théoricien, qui s'attaque effectivement à la grande théorie de l'univers, c'est-à-dire non pas en essayant de faire la énième théorie, mais en essayant de recomposer, de reconstruire un peu toutes les connaissances qu'on a actuellement, avec un guide, avec une ligne directrice qui est de considérer d'une part l'espace-temps est comme ayant une structure fractale, et en appliquant le principe de relativité non seulement au temps ou à l'espace, mais également au changement d'échelle.
Heureusement que le temps est extensible, parce que notre montre nous indique qu'on est déjà en retard, heureusement qu'il n'y a personne, mais bon, le temps est en fractal. Hein,
voilà, et le temps étant relatif, extensible, et puis pour une fois on s'en fiche, moi je crois que les gens, ils ne voulaient pas faire d'émission après, mais tant pis, hein. Alors bon, on va quand même pas...
rendre l'antenne à 3h du matin.
Non, on rassure. Alors on va rendre la parole donc à Laurent Nautal pour cette troisième partie de l'interview réalisée le 21 mars dernier.
On va peut-être justement l'aborder, c'est le fond, enfin la nature même de votre travail, Laurent Nautal, qui porte sur... ça serait un peu réducteur que de dire que vous avez tenté d'unifier la physique, mais en tout cas, il vous avait effectivement posé un problème majeur, qui est qu'il y a deux mondes en gros de la physique, hein, pour les rappeler succinctement, il y a le monde de l'infiniment grand, qui est dominé par la théorie de la gravitation de Newton, qui s'est par la suite améliorée, on pourrait dire, de la relativité avec l'arrivée d'Einstein, Poincaré, la théorie de la relativité, mais qui est essentiellement une physique du mouvement, et dans un monde donc des grands espaces, et on a deuxièmement le monde de l'infiniment petit, qui est dominé par la mécanique quantique, où là, vous avez souligné dans votre livre, qui s'appelle d'ailleurs « La relativité dans tous ses états », dont on reparlera, que là régnait, en fait ce sont des lois axiomatiques, qui étaient des lois, on pourrait dire sur mesure, qui étaient aussi des lois de la mesure, et où manquait cruellement un principe, justement ce que vous aviez dit, un principe unificateur. Et vous pouvez peut-être nous rappeler ce qui vous a conduit justement et à trouver ce principe et lequel, et à l'appliquer au monde de l'infiniment petit.
Alors, tout d'abord, sur le début de la question, en fait, j'essaye pas d'unifier pour unifier. C'est-à-dire que, à la base, j'essaie de comprendre.
Oui.
Et si la compréhension passe par et implique l'unification, bah, très bien, on est content. Mais il faut admettre que dans de grands cas, la compréhension passe par une désunification. C'est une chose qui est, je trouve, beaucoup oubliée actuellement. Le but et le désir d'unification est devenu comme une espèce de... Saint Graal qui éblouit tout le monde et qui fait oublier que dans l'histoire de la physique, c'est vraiment très rare qu'il y ait eu des unifications parce qu'on cherchait l'unification. On cherche à comprendre,
tout à fait.
Effectivement.
Tant qu'on n'a pas une théorie, c'est pas la peine d'en plaquer une qui serait
tout
simplement...
Tout à fait, d'autant plus que, sachant que ce qui bloque en physique, c'est pas les choses unifiées, c'est les choses désunifiées. Ça arrive très très souvent qu'en physique, on ait un seul concept pour quelque chose qui en fait est double. Donc il y a ces deux types d'erreurs qui sont là et qui sont les blocages par rapport à la physique du futur. Il y a le concept qu'on croit être deux choses et qui est en fait en étude, et l'inverse. On a un seul mot, un seul concept, un seul outil mathématique pour quelque chose qui est en fait est double et on ne le voit pas. Et si on est dans ces conditions-là, on va chercher à unifier des choses qui ne sont pas sur le même plan. C'est un petit peu le diagnostic que je ferais de la physique actuelle, qui est dans les théories à la mode, et bien on essaie d'unifier la gravitation avec les champs de jauge, ce qu'on appelle les champs de jauge électromagnétiques, interaction forte, interaction faible. Mais personnellement, je considère que ce n'est pas sur le même plan. Et ce n'est pas ça que je vais essayer d'unifier. Moi, j'essaierai d'unifier la gravitation et le quantique.
Et parce qu'en même temps, c'est bien que vous touchiez ce point sensible, unifier ne consiste pas à chercher à réunir d'une façon mathématique, on pourrait dire, des choses qui sont issues de domaines totalement distincts.
Tout à fait.
En fait, ça rejoint notre première question sur le travail du théoricien. On a oublié peut-être de mentionner que la théorie cherche à établir quelque chose qui est au-dessus de ce qui existe. Ça consiste peut-être à anticiper sur une réalité. Et ensuite, bien sûr, il faut vérifier que ce qui existe découle bien de ce nouveau regard.
C'est tout à fait ça. Par exemple, entre les années 1920 et 1950-60, il y a eu des dizaines de théories unificatrices de la gravitation et de l'électromagnétisme qui, en fait, marchaient très bien. Je veux dire, c'était très beau. On retrouvait les équations de Maxwell d'un côté, les équations d'Einstein de l'autre. Mais justement, c'était comme un espèce de collage. Il y avait des structures mathématiques. On trouvait qu'il y avait deux types de structures. On les retrouvait. Et à l'arrivée, il n'y avait rien de nouveau. Ça se reséparait, on avait les deux, et on n'avait rien gagné. Une authentique unification, c'est autre chose que ça.
Oui, parce que de toute manière, rien de nouveau ne peut émerger de ce qui existe par définition.
Voilà, c'est plutôt un changement de niveau, en fait. Et c'est ça que j'essaie de faire. Vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement ce problème actuellement d'avoir des lois macroscopiques dominées par des lois de type classique, la relativité, la gravitation, etc. Et le microscopique dominé est décrit par une théorie complètement différente qui est la mécanique quantique. Et depuis 70 ans qu'on est dans cette situation, il y a eu des tentatives de déduire les lois quantiques des lois classiques, de déduire les lois classiques des lois quantiques, enfin de les faire communiquer l'une par rapport à l'autre sur le même plan. Ce qu'on essaie de faire avec la relativité d'échelle, c'est un petit peu différent, c'est d'avoir des super lois qui ne soient en elles-mêmes ni quantiques ni classiques, autres, et qui retombe sur le classique ou le quantique suivant l'échelle à laquelle on se place.
Là, vous avez prononcé le mot de relativité d'échelle, donc si j'ai bien compris, et c'est ce que vous décrivez dans votre livre, en fait, vous appliquez simplement le principe de relativité lui-même, dans son essence, et en abandonnant l'idée de mouvement et de référentiel en mouvement, pour arriver à son principe premier, qui est de considérer la relativité des choses, et cette fois-ci en l'appliquant à des changements d'échelle, et qui vous font effectivement investir à nouveau la physique quantique, la mécanique, par ce biais-là.
Tout à fait, à un détail près, c'est qu'on n'abandonne pas pour autant la relativité du mouvement. La relativité, on complète le principe de relativité. Enfin, il y a le principe de relativité dans sa formulation très générale. Les lois de la nature doivent s'appliquer quel que soit l'état du système de coordonnées. Et ensuite, ces systèmes de coordonnées, il va y avoir des manières de plus en plus complexe de caractériser leur état. Et si on veut justement caractériser l'état d'un référentiel, on s'aperçoit qu'on a besoin de définir une origine, donc il y aura une relativité de la position, une orientation, il y aura une relativité des angles, justement de l'orientation des axes. Ensuite, il va falloir caractériser le mouvement de ce système de coordonnées, mouvement qui ne peut être défini que relativement à un autre système de coordonnées. Aussi bien la position que l'orientation, que le mouvement ne sont des grandeurs que relatives, qui ne peuvent pas être définies de manière absolue. Ce sont pas des propriétés d'objets individuels, mais c'est des propriétés de couple, en fait. Le mouvement n'est pas la propriété d'un objet. Mouvement d'un objet n'a pas de sens.
C'est ce que Galilée avait dit, d'ailleurs, dès le départ.
Galilée l'avait vu. Ouais. Malheureusement, on emploie encore le mot vitesse ou le mot position. Du coup, ça nous donne l'impression qu'on peut dire la position d'un objet, la vitesse d'un objet. Ce sont des non-sens absolus. Seul a un sens,
oui.
Une interposition ou une intervitesse. Si on avait abandonné le mot position, le mot vitesse, et si on l'avait remplacé, on verrait tout de suite, on ne peut pas dire l'interposition d'un objet. Non, entre deux objets. L'intervitesse entre deux objets. Donc, l'idée là, c'est d'avoir une variable nouvelle d'état du système de coordonnées qui est l'échelle, et en particulier c'est la résolution avec laquelle on étudie un système. Bon, la résolution, c'est tout simplement les traits le plus petit sur une règle, la limite de grossissement d'un microscope, l'énergie maximale atteinte par un accélérateur de particules. Donc c'est cette grandeur-là va caractériser l'échelle de la même manière que la vitesse caractérise le mouvement. Et changer de résolution, ce sera effectivement faire un changement du système.
Changer de loi. Est-ce que c'est la même chose que, par exemple, si je passe de l'échelle macroscopique où je parle de pression, de volume, et si je passe à l'échelle des molécules et des particules, j'ai parlé d'énergie cinétique des molécules
pour décrire la température. On a là très, très exactement un très bon exemple, justement, d'une transformation du mode de description entre théorie physique par un changement d'échelle. C'est ce qui a été vu par Poincaré et Einstein, c'est-à-dire que la thermodynamique est en réalité une théorie macroscopique moyenne, et quand on va vers les petites échelles, on rencontre le mouvement brownien, puis le mouvement moléculaire lui-même individuel, et donc les choses qu'on appelle température, la température, ça n'est rien d'autre qu'une vitesse d'agitation. Et Poincaré l'a dit dès 1903, dès 1904, c'est le mouvement d'agitation qu'on traduit macroscopiquement comme température. Donc là, on a vraiment un exemple, très bonne idée, justement de changement entre théorie physique par un changement d'échelle.
Et ça nous amène effectivement à décrire, parce que pour passer d'une échelle à l'autre, il faut opérer une transformation, il y a bien une relation effectivement entre le microscopique et le macroscopique, et pour passer de l'un à l'autre, il faut disposer d'équivalences, enfin d'équations qui nous permettent de dire, par exemple, à quelle température correspond une énergie cinétique moyenne donnée.
Oui, c'est ça. Et le fait de dire c'est de la relativité, ça revient à dire cette transformation entre les échelles, c'est ça qu'on va essayer de décrire, relève en fait d'une projection. C'est-à-dire que quand on regarde le monde à une échelle particulière, c'est incomplet, c'est une projection du réel, quel qu'il soit, entre guillemets. Il y a une description plus générale qui contient toutes les échelles à la fois, de la même manière qu'en relativité du mouvement, si on se pose la question quelle est notre vitesse, on a toutes les vitesses à la fois par rapport à tous les référentiels possibles, et on va se placer dans un cadre où ceci sera pris en compte. Donc c'est... Et ensuite, pour un référentiel donné, il y aura une vitesse particulière, de même pour une expérience donnée, un appareil de mesure particulier va nous mettre à telle résolution.
Ce qui veut dire qu'en fait, votre échelle, elle n'a pas une valeur absolue, c'est une échelle par rapport à un référentiel. Ouais. Donc on est bien dans la relativité d'échelle. Et maintenant, une petite question, que viennent, alors on vous l'avait déjà expliqué, mais que viennent faire les fractales là-dedans? Est-ce que le changement d'échelle obéit à une logique fractale du monde? Semble-t-il, puisque plus on descend vers l'infiniment petit, plus les lois qui décrivent les phénomènes sont peut-être compliquées. Alors on a là une loi inverse de ce qui se passe dans un domaine macroscopique où plus on découpe, on part de l'hypothèse que c'est différenciable, c'est-à-dire plus on découpe, plus c'est simple. Là, plus on découpe, plus on va vers l'infiniment petit, plus c'est compliqué. Donc c'est peut-être ça qui vous a donné l'idée des fractales?
Un petit peu, mais c'est ça, mais d'une manière un petit peu plus précise que ça. D'une manière plus précise, c'est le raisonnement suivant, c'est que si on regarde, on fait deux mesures, par exemple, de longueur sur cette table, là, ou n'importe où, dans le domaine macroscopique, et que je mesure, par exemple, une longueur avec une règle dont les traits minimaux seraient séparés d'un centimètre, donc à résolution de 1 centimètre, puis après 1 millimètre, je trouverais le même résultat, mais plus précis. Donc je trouverais, mettons, 1,10 mètres, plus ou moins 10 centimètres, et puis ensuite j'aurais 1,13, je rajouterais des décimales supplémentaires. Mais le résultat, lui, n'a pas changé. Maintenant, si on fait le même type d'expérience dans le domaine quantique, donc à l'échelle des atomes, alors là, ça change complètement. On fait deux mesures avec deux résolutions différentes d'appareils de mesure, on ne trouve plus du tout le même résultat. On ne va pas retrouver le même résultat avec plus de décimales, le résultat a changé. Donc on se retrouve dans une situation où là, on a une dépendance explicite des résultats de mesure sur la résolution de l'appareil. Et ce que j'ai fait, c'est de dire que cette résolution, ce n'est pas seulement celle de l'appareil, c'est une résolution intrinsèque à la description. Et donc, en réalité, l'organisation même du monde, les grandeurs physiques, dépendent explicitement de l'échelle à laquelle on les regarde. Et ça, c'est la définition du fractal.
C'est ce qui ressort d'ailleurs du principe.
C'est ce qu'on appelle la géométrie fractale. Un objet géométrique qui dépend explicitement de la résolution où on le regarde.
Voilà, effectivement, et on retrouve par là effectivement, le principe même de
comment dire,
le principe d'incertitude
d'Heisenberg. C'est en réfléchissant sur ce principe d'incertitude et en le lisant de la manière que je viens de dire que je me suis aperçu qu'effectivement, ce principe d'incertitude pouvait être vu comme la manifestation d'un fractal.
C'est tout à fait important de rappeler qu'on en a fait souvent un principe d'indéterminisme en disant que les choses, ce n'est pas déterminé, ce n'est pas du tout ça. C'est une théorie de la mesure. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est un véritable renversement. Le principe dit d'indétermination devient un principe de parfaite détermination. Là, le résultat de mesure dépend de la résolution.
Exactement.
Où on a fait la mesure d'une manière très claire et très bien définie.
Tout à fait, c'est important de le rappeler, le principe d'incertitude est en fait un principe déterministe.
Il n'est un principe d'incertitude que la lumière des lois classiques. Donc il faut voir l'histoire. Les physiciens habitués aux lois classiques, mais seulement habitués parce qu'elles-mêmes avaient paru bizarres au moment où Newton, par exemple, les avait introduites, hein, une force qui agit à distance, il y avait plein de choses qui avaient paru pratiquement magiques. Les gens se sont habitués à ça, mais quand les lois quantiques sont arrivées, habitués aux lois quantiques, ils se sont mis à dire avant c'était déterminé, maintenant ça ne l'est plus. Si on regarde les lois classiques, elles sont encore plus indéterminées que les lois quantiques. Mais simplement, la relation d'incertitude, elle est là macroscopiquement tout autant. Mais on ne la voit pas, parce que nos mesures ne sont pas assez précises, tout simplement.
C'est toujours pareil, c'est dangereux de populariser quelque chose sans la connaissance. On va
couper là, hein, direct. Hein, voilà. Alors c'était la troisième partie de cette interview avec Laurent Nautal, partie très intéressante justement sur les fondements même de la relativité d'échelle. Alors il a répété à plusieurs reprises, et c'est bien, que effectivement l'observation, les mesures dépendaient de l'échelle à laquelle on les observait. Et en fait, les propriétés avaient l'air de dépendre de l'échelle d'observation. Et ça rejoint le principe même de relativité. Il n'y a pas d'échelle absolue. De même qu'il n'y a pas de référentiel, c'est-à-dire d'origine du monde ou à partir de laquelle on pourrait mesurer des distances ou des vitesses.
Ce qu'il appelait l'intra-vitesse.
Oui, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien d'absolu qui puisse nous servir en quelque sorte d'étalon. Hein, il n'y a pas non plus d'échelle absolue des phénomènes, ce qui explique qu'en fait, les phénomènes sont observés par rapport à d'autres, et c'est l'échelle qui détermine leurs propriétés. Là, on est dans la relativité d'échelle, et c'est véritablement le fondement de toute la réflexion de Laurent Nautal.
C'est une réflexion de plusieurs années. Il nous avait expliqué que ça devait...
Oui, ça lui a pris un temps...
Un temps assez important, ouais. Je crois, plus d'une dizaine d'années, pour qu'il commence à aboutir, à avoir des résultats.
Mais c'est à force... Et là, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette troisième partie de l'interview, c'est qu'il parle du principe d'incertitude, que c'est vraiment ça qui lui avait donné cette idée de la relativité de l'observation, pas seulement dans le sens habituel où on l'entend, c'est-à-dire que on peut pas être à la fois précis sur les vitesses et les positions, ça c'est l'acception, je dirais, courante du principe d'Heisenberg, mais c'est véritablement qu'il n'y a pas de... Rien n'est absolu, il n'y a pas d'observation absolue à partir de laquelle on pourrait décrire le reste du monde. Hein, c'est l'idée même de relativité que Einstein avait travaillé, avec Galilée avait fondé, mais à propos du mouvement. Einstein était plus loin, il l'a appliqué au temps.
Hein, tout à fait.
Et là, on a fait un pas de plus, parce que c'est un peu comme ça que Nautal a été perçu. Il a fait la couverture de Science et Vie. Enfin, ce n'est pas pour rien, c'est quelqu'un d'extrêmement grand. Mais comme tu l'as dit, mon cher Thierry, c'est l'aboutissement, encore que ce n'est pas encore l'aboutissement, hein, il est en pleine recherche, mais ce sont des années de refonte, on pourrait dire, des connaissances de scientifiques.
Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, au niveau de ces conférences, il en a fait plusieurs, ils voient déjà rien que l'évolution des travaux qui sortent en fait de sa théorie. C'est assez impressionnant, donc ça marche avec les planètes extrasolaires, avec le système solaire, il y a quand même pas mal de choses qui au départ on ne pensait pas que ça pouvait tourner, puis au fur et à mesure, il confronte sa théorie, puis pour l'instant, comme on dit, elle tient la route, ce qui est quand même pas mal.
Oui, alors c'est pas parce que c'est une théorie de plus qui marche bien, comme il l'a rappelé, il y a eu plein de théories, on les a oubliées hein, depuis un siècle, il y en a eu plusieurs qui ont tenté d'unifier les différents pans de la physique.
Mais ça apporte un plus, en fait. C'est ce qu'il disait, en fait. Il y a des théories qui arrivaient, entre guillemets, avec un peu de cuisine
à faire marcher.
Avec du collage à faire marcher ça. Mais la différence, c'est que la sienne apporte un plus. Ça, il arrive à expliquer des choses qui étaient inexplicables avant. Donc,
voilà. Pour employer un langage un peu moderne, une théorie ne résulte pas d'un copier-coller de ce qui existe. Ouais, c'est clair. Hein.
Parce que copier-coller, c'est moderne. Du couper-scotcher, c'est déjà mieux.
Voilà. Alors, nous allons passer à la dernière partie de cette interview où je pense qu'il va aborder justement les problèmes de structuration. Enfin de...
Et puis un peu du système solaire, etc.
Et il parlera justement de... Bon, on va pas vendre la mèche, hein, système solaire.
Il va déjà la vendre, Michel.
J'en arrive au thème même de la conférence, qui s'appelle morphogénèse gravitationnelle. Initialement, vous l'aviez d'ailleurs appelé relativité d'échelle et morphogénèse gravitationnelle. Alors effectivement, quand on regarde le monde à travers cette théorie des fractales et surtout cette réorganisation un petit peu des lois actuelles par rapport à un regard relatif des relativités d'échelle, alors ça vous a conduit à... on en a parlé dans la première partie avec le livre de Chaline, hein, à examiner la structuration de cet univers, finalement. Vous en déduisez, donc en appliquant cette fois-ci par un retour extraordinaire de la physique, de la mécanique quantique vers les grandes échelles, ou à toutes les échelles, pourrait-on dire, vous appliquez finalement le principe de la mécanique quantique dans son essence, c'est-à-dire l'hétérogénéité, on pourrait dire, de la répartition de la matière, hein. On a des concentrations, on a des concentrations de vitesse ou de substance, ou de matière en tout cas, qui nous amène finalement, qui vous a amené à revoir ce qu'on connaissait déjà, par exemple les systèmes planétaires, les répartitions de champs de vitesse des galaxies, comme obéissant finalement une espèce de physique quantique du macroscopique. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela un peu ?
Tout à fait, mais il faut bien être clair sur le fait que ça n'est pas la mécanique quantique des particules élémentaires. C'est une autre mécanique quantique qui se construit sur les mêmes lois fondamentales, mais justement lois fondamentales qui sont ni quantiques ni classiques. On a un niveau de description plus profond.
Voilà, qui ne dépend pas finalement du niveau de...
Voilà, il y a un niveau de description plus profond qui va générer ensuite des lois. Et initialement, c'est vrai que ce travail, je l'avais fait avec l'idée d'essayer de démontrer l'équation de Schrödinger et de la comprendre à partir d'un principe premier plus profond. Mais un des résultats inattendus, c'est que cette démonstration de l'équation de Schrödinger, équation de Schrödinger qui est l'équation donc fondamentale de la mécanique quantique non relativiste au niveau des atomes, eh bien cette démonstration fonctionne d'une manière très générale qui fait que les conditions de base qui amènent cette équation de Schrödinger ne sont pas restreintes au domaine microscopique. Il existe dans le domaine macroscopique des conditions particulières, pas partout, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une équation de Schrödinger partout, c'est pareil que tout à l'heure, il n'y a pas des fractales partout, non, il y a certains endroits où il y a des fractales, et ça apparaît sur des conditions très particulières, et là, pour certains types de conditions très particulières, eh bien, l'équation fondamentale de la dynamique classique se transforme en une équation de Schrödinger. Et donc, on peut utiliser l'outil quantique, un outil statistique, un outil où on va décrire en fait non pas des objets solides, mais plutôt des objets qui sont des sortes d'ondes de densité. Hein. On va avoir des objets qui vont...
On va avoir des concentrations.
Des concentrations, fait. Mais les particules individuelles qui fabriquent l'objet, finalement, peuvent entrer ou sortir, mais l'objet reste...
C'est comme les vagues à la surface de l'eau. Quand tu as un bouchon sur l'eau où les vagues passent, le bouchon reste toujours à la même place.
Voilà, là, il y a une onde, mais disons que c'est le cas de la vague, c'est une onde, comment dire, non physique, au sens où, effectivement, le bouchon, lui, ne bouge pas en translation.
Il n'est pas transporté.
Voilà, il n'est pas transporté. La vague, ouais. Alors que là, il s'agit bel et bien du transport de particules. Les particules peuvent entrer ou sortir, mais si on prend des instantanés de la structure à une époque ou une autre, on verra la même structure, mais qui sera réalisée par des particules différentes.
On peut peut-être préciser que les fameuses équations de Schrödinger, hein, pour ceux qui ont fait un peu de physique...
Il ne faut pas avoir un chat dans la gorge pour...
Voilà, le chat de Schrödinger. Elles ont des solutions qu'on appelle les densités, qui définissent des densités de probabilité de choses qui sont des champs de vitesse, ou qui sont des matériaux, des particules.
Voilà, c'est-à-dire que ce à quoi on arrive, c'est que, en fait, toutes les configurations ne sont pas possibles. Il y a certaines configurations qui sont plus probables que d'autres. Et donc, et ces configurations correspondent à des formes particulières. C'est-à-dire que, alors que d'une manière, avec des méthodes ordinaires, on pourrait dire que toutes les formes sont possibles. Non, là, on a une espèce de discrétisation de formes possibles. Certaines formes particulières apparaissent comme plus probables que
d'autres. Alors, de dire que le monde obéit, on pourrait dire entre guillemets, aux équations de Schrödinger, alors il y a deux façons de le voir. C'est qu'effectivement, les équations de Schrödinger, enfin les lois physiques fondamentales, si on peut formaliser le monde comme ça, c'est qu'il y a une logique profonde qui explique cela.
Oui, mais il faut voir qu'est-ce que c'est cette logique. C'est très étrange. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quelles sont les conditions qui me permettent d'obtenir justement l'équation de Schrödinger ? C'est de dire qu'on ne sait plus rien. Ça se ramène à ça.
C'est plutôt qu'on renonce à décrire...
Je supprime toute l'information possible.
Voilà, j'évite...
Premier type d'information, avant on pouvait dire, je pars dans telle direction, j'ai une position, une vitesse, je vais partir dans telle direction. À la place de ça, je vais dire, je ne sais rien sur la direction. Toutes les directions sont possibles, j'ai une infinité de trajectoires possibles.
Mais je constate que finalement...
Deuxièmement, la deuxième condition, c'est de dire, si je suis à un point, je me dis, je vais au moins me souvenir de là où j'étais pour aller là. Je vais garder... une mémoire sur mon... On parlait de l'impetus tout à l'heure, tous les deux.
Galilée, hein,
pré-galilienne.
La mémoire du mouvement
que le mouvement est une certaine mémoire de ce qui s'est passé antérieurement et que ça détermine la suite, une espèce de causalité. On abandonne ça aussi. On dit, à tout moment, la particule va aller n'importe où en perdant complètement la mémoire sur ce qui s'est passé après. Et c'est pas encore assez. On va rajouter quelque chose d'encore pire. On va carrément mettre de l'irréversibilité, c'est-à-dire avoir un processus vers le futur et vers le passé qui sont différents. Donc j'ai cassé les choses au niveau des angles, au niveau de l'espace, au niveau du temps. Et quand on fait ça, on prend l'équation fondamentale de la dynamique newtonienne, donc l'équation qui initialement était vraiment l'équation déterministe de base, et cette équation devient l'équation de Schrödinger. C'est pour ça que cette équation de Schrödinger est tellement universelle et tellement large. Ce sera dans tous les cas où on a perdu toute l'information sur le système. Et la chose paradoxale, c'est qu'en disant on perd toute l'information, eh bien on voit apparaître quelque chose, on voit apparaître des structures. On ne sait plus rien sur les trajectoires individuelles, et du coup,
c'est à cela que je voulais en arriver, là, justement, voilà. Puisque ça peut s'interpréter comme une tendance du système, une tendance naturelle à former des structures.
Complètement naturelle, spontanée.
Spontanée. Et alors là, on va arriver justement à une des conclusions inattendues ou attendues de votre théorie, c'est que on va retrouver les systèmes planétaires, par exemple le système solaire, ou peut-être on va commencer par autre chose. Vous avez constaté avec, j'ai oublié le nom d'un chercheur américain qui avait alors la répartition des champs de vitesse de galaxies, il y a des concentrations de champs de vitesse.
William Tift, oui.
Voilà. Oui. Et donc dans la fuite des galaxies, ça se fait pas n'importe comment. On a donc, ça peut expliquer par exemple qu'il y a une espèce de toile d'araignée, une galaxie d'amas. Et ensuite les systèmes extrasolaires, et on finira par le système solaire.
5 minutes.
Hein. Oui, annoncer un petit scoop. Oh, ça sera.
On peut le dire.
On peut le dire. Donc.
Pourquoi appliquer ça au système planétaire? Eh ben, tout simplement parce que dans les tout débuts de l'évolution du système solaire, après que le Soleil se soit formé, eh bien, le gaz et les poussières qui venaient de ce globule interstellaire qui s'est condensé se mettent à sécréter, à former ce qu'on appelle les planétésimaux. Les mouvements de ces planétésimaux sont extrêmement chaotiques et on peut attribuer à chacun de ces planétésimaux précisément les conditions dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est totalement impossible de suivre n'importe laquelle de ces trajectoires individuelles de planétésimaux. Du coup, on peut appliquer une équation de Schrödinger à la distribution de ces planétésimaux et on trouve effectivement qu'il va y avoir des zones de densité de probabilité plus grandes. Et c'est là que les planètes vont se former. Résultat, on peut prévoir une distribution plus probable que d'autres pour la distribution des planètes.
Alors, avant d'en arriver à ce qu'on pourrait appeler un scoop, effectivement, nous avions il y a quelque temps, au mois de janvier, reçu Jacques Lascar, qui nous parlait donc en appliquant les mathématiques du chaos, en décrivant donc avec maintenant on arrive avec les ordinateurs à simuler l'évolution du système solaire sur des millions d'années, des dizaines de millions, des milliards d'années. On voit tout à fait que rien n'est stable à cette échelle de temps, mais que malgré tout, les orbites planétaires se répartissent dans des secteurs. Il y a effectivement des zones plus probables que d'autres. Il y a des zones où il n'y aura jamais de planète. Et ça rejoint un peu ce que vous dites.
Ah, tout à fait. Simplement, avec la méthode de Schrödinger, on est capable d'aller plus loin d'une certaine manière au niveau des contraintes. Ça rajoute des contraintes supplémentaires. Jacques Lascar a effectivement montré que suivant certaines conditions de la nébuleuse primordiale, on peut tomber sur des lois d'échelle ou bien sur des lois régulières en n carré ou autre, mais sans pouvoir contraindre encore les paramètres qui sont là-dedans. Avec l'équation de Schrödinger, c'est totalement contraint et on a une loi extrêmement simple qui est tout simplement que la vitesse est l'inverse d'un nombre entier. C'est une certaine vitesse fondamentale divisée par un nombre entier. On ne peut pas faire plus simple comme loi. Ça permet de prévoir des orbitales manquantes dans le système solaire très interne, et on commence à avoir des indications qu'il y a bien des objets assez distants.
Donc vous prévoyez carrément la...
Alors, juste, on signale que près des studios d'alternance, il y a une rue Urbain-Leverrier, une école Urbain-Leverrier. Peut-être qu'il y aura une rue Laurent-Nautal et une école Laurent-Nautal très prochainement.
On ne le lui souhaite pas dans l'immédiat, parce que ça sous-entendrait qu'il est mort, mais on vous le souhaite pour le futur. Leverrier qui avait calculé la position de la planète Neptune.
Voilà. Vous avez calculé la position d'une nouvelle planète ?
Eh ben c'est un petit peu différent au sens où ce que Leverrier avait fait, c'était d'utiliser la théorie de Newton et les perturbations. Donc c'était une vision indirecte de la position de Neptune. C'est un peu ce que font mes collègues astronomes qui ont vu, entre guillemets, des nouvelles planètes par leur vitesse. Donc la manière dont on voit les exoplanètes, il y en a plus de 50 maintenant, eh bien c'est la méthode Leverrier à la sauce moderne. Moi je suis plus au niveau de théorie fondamentale. Et effectivement, 5 ans avant que ces exoplanètes soient découvertes, j'ai pu prédire la distance les distances à leur étoile auxquelles elles allaient apparaître, et il se trouve qu'effectivement, c'est en très bonne.
Ce qui fait que vous n'avez pas du tout été étonné par le système de 51 Pégase avec
une
grosse étoile.
Il était prévu depuis 5 ans déjà, effectivement, par cette théorie. Oui. Il y avait on prédisait le pic fondamental à 0,043 unités astronomiques. C'est exactement la distance où ça a été trouvé.
Alors vous avez quand même promis un scoop qui est la découverte peut-être d'une prochaine planète dans le système solaire. Avec vous soupçonniez deux orbites qui étaient inoccupées, enfin pour l'instant, inoccupées en tout cas, on n'avait pas encore découvert de planète, mais une qui était à 0,05 unité astronomique, donc c'est très près du Soleil, trop près d'après vous.
Il peut y avoir des poussières là.
Ouais, et une à 27 millions de kilomètres du Soleil. Et vous êtes parti en chasse là avec des...
On a effectivement fait des recherches avec des collègues, Gérard Schumacher, Jean Guay. En fait, ce qu'on attend, c'est plutôt un anneau de petites planètes autour de 0,15, 0,17 unités astronomiques. Il y a pas mal d'indications, en fait, depuis une dizaine d'années, des indications par la dynamique en particulier, qu'il y aurait sans doute un anneau de petites planètes à cette distance-là. C'est pas encore.
Donc, si vous découvrez cette planète ou cet anneau, ça sera.
Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de scoop encore, au sens où c'est pas découvert.
Vous
ayez des informations.
Je ne vous aurais pas caché, en tout cas.
Eh bien voilà, c'était l'interview de Laurent Nautal en quatre parties, avec la quatrième qui a effectivement abordé le grand sujet de la prévision de sa théorie, donc la théorie d'un univers fractal, un espace-temps fractal, avec une apparition spontanée de structures, soit temporelles, soit spatiales, et là on a clos avec le système solaire et le système planétaire, exoplanétaire, les exoplanètes autour d'autres étoiles qui sont la grande coqueluche actuellement des astronomes. On est en train de découvrir de nouvelles terres autour de nouveaux soleils. Et Laurent Nautal avait bien entendu, avec sa théorie, peut prévoir la position de ces planètes. Et il a prévu effectivement qu'il y avait deux planètes entre Mercure et le Soleil. Une qui était vraiment très proche du Soleil, donc qui est probablement un anneau de poussière, et une qui est sans doute très petite entre Mercure et le Soleil. Et là, il s'est mis avec les Schumacher, donc qui sont
des découvreurs de comètes notamment.
Voilà, les grands découvreurs de comètes, la comète Schumacher-Levy que tout le monde connaît, et qui sont je crois Schumacher, lui ou sa femme, c'est un amateur. Et donc juste une petite parenthèse. C'est ce qu'il faut retenir de cette approche qui est, on va le répéter, totalement novatrice et en même temps extrêmement scientifique, théoricienne au sens que ce n'est pas un artifice de calcul, mais c'est véritablement une façon de voir le monde qui est issue de la grande théorie de la relativité. Alors en total, on va essayer si on peut dire, c'est un peu prétentieux de notre part, de le suivre. Mais c'est vraiment quelqu'un, je pense qu'on en parlera longtemps, et que ce sera quelqu'un de très célèbre plus tard.
C'est une grande force d'une théorie.
On va s'avancer.
Ce n'est pas que d'expliquer l'existence et essayer de prédire des choses qui vont arriver dans quelques temps. Oui. C'est ce qu'il a fait notamment avec les exoplanètes. C'est aussi pour ça qu'on a tendance à dire que sa théorie tient la route. On ne va pas non plus aller trop loin à dire que c'est la théorie... Parce qu'on n'est jamais sûr.
Mais c'est un travail de théoricien, quoi qu'il arrive, ça va.
C'est très intéressant.
Voilà, ça ne sera pas une théorie parmi d'autres qui sera oubliée, ça sera une pierre de plus dans la grande construction de la relativité, qui est vraiment la théorie astronomique, j'allais dire, de notre siècle, on va dire de notre temps, puisque c'est déjà le siècle dernier. Mmh. Hein. Donc voilà, chers amis, je me suis rendu compte qu'au cours de cette interview, j'ai... presque autant parler que le conférencier, ça c'est pas bien.
C'est pas bien.
Vous me pardonnerez, c'est le fruit un peu de l'enthousiasme, puis c'est vrai que ce sont des choses qui nous tiennent à cœur, la Société d'Astronomie de Nantes, on aime aussi comprendre les choses, on n'est pas seulement des observateurs, bien que ce soit une grande composante et qu'on fait vraiment des observations merveilleuses. Là ils sont revenus du Kéra, enfin il y a eu beaucoup de choses, mais en même temps on ne néglige pas l'aspect théorique qui fait partie de la pratique de la science amateur en pleine raison. Voilà mon cher Thierry,
merci,
vous rends l'antenne.
On est en retard, mais le temps étant fractal ou alors extensible, on continue un peu relatif. On va essayer de prendre un petit quart d'heure de retard puisque en fait On a le temps, c'est alors, les vacances comme on dit, surtout qu'il n'y a personne derrière nous, donc on va rendre...
Voilà, mais on va quand même pas lasser nos auditeurs évidemment, mais...
Tout à fait, donc une petite pause musicale et après on reprend avec les actus astro spéciales américaines.
Alors c'est Laurent Woolsey je crois, deuxième partie.
La suite, air partie. Nous êtes toujours en direct sur Alternante.
Après Laurent Nautal, Laurent Woolsey.
Voilà, on fait dans les Laurents.
On est dans les Laurents.
On est dans les Laurents. Après, donc vous êtes toujours en direct sur Alternante, 98.1 FM à Nantes, 91 à Trinex-Saint-Nazaire. Vous êtes toujours avec Pulsan, malgré que le temps est extensible, donc on est un peu en retard, même beaucoup en retard, mais on continue quand même. On va aborder la dernière partie de l'émission, on va vous présenter un peu les dernières nouvelles qui viennent de sortir.
Les news nouvelles neuves.
Avec une petite spécialité aujourd'hui, parce que nous allons parler de nos chers amis américains. C'est vrai qu'ils ont quand même fait l'actu dernièrement niveau astronomie, donc quand même pas mal de choses à dire.
Donc après le Lolo d'amour, on va le Fabrice.
Voilà. C'est notre ami Fabrice Bubreuil qui vous présente les actus en direct d'Alternante.
Tout de suite maintenant, quoi.
Tout de suite maintenant, à l'heure pile H.
H, bon, H.
À l'heure J et jour H.
Voilà. H, voilà, H, ouais, tout à fait. Donc, les actus, une fois de plus, il y en a beaucoup de trop, donc une fois de plus, ça fait faire le tri. Mais j'ai envie, pour te contredire, ne serait-ce que pour le principe, de commencer, non pas par les Américains, mais à tous et leur tout honneur, par nous.
Ah.
Puisque ce mois-ci, la 141e Ariane a décollé, impeccablement de courroux pour changer.
C'est une évidence.
Que ça fait 3 mois qu'il n'y en avait pas eu, alors il fallait en parler.
Il fallait quand même
en
parler.
Bon, ça fait 4 depuis le début de l'année.
C'est d'une banalité.
Bon. Ça fait donc une Ariane de plus lancée, un satellite de plus à retourner autour de la tête. 3 autres à venir au moins, puisque au sein du Bourget, a été annoncé 3 autres contrats de lancement pour Ariane.
C'est bien.
Tout va bien. D'ailleurs, au Salon du Bourget, on a annoncé autre chose qui est assez drôle. Le Salon du Bourget, c'était en France. Et les Français pensent un peu à eux. Parce que, bon, dans l'espace, c'est bien beau, mais l'hamburger américain, les lyophiles, les Russes et tout ça, ça va pas très bien.
Ouais.
Donc, on a inventé un nouveau truc, le cognac de l'espace.
Ah oui, c'est...
Maintenant, dans l'espace, les spationautes emmèneront du cognac qu'ils pourront boire tranquillement pendant leur mission et pour égayer un peu le séjour.
Et est-ce qu'ils vieillissent plus vite ou moins vite dans l'espace?
Ah ben, le principe ça, d'Einstein. On ne sait pas encore, mais ça va être à vérifier.
C'est une expérience scientifique.
Le cognac, il vieillit pas, mais ton cognac, une fois que tu l'as, c'est pas comme le whisky, ça vieillit une fois que tu l'as.
Ça vieillit avec le temps, mon cher Thierry.
Non, parce que le whisky, ça vieillit pas avec le temps. Le whisky, ça vieillit dans un fût. Une fois que tu l'as sorti du fût, ça vieillit plus.
On parle de boisson de l'homme.
Bah, le cognac, oui, bah, le whisky, le cognac.
Et pas de boisson morte, je le rappelle.
Voilà.
Donc le cognac...
Le cognac de l'espace.
Sauf le whisky breton.
Comment va se comporter le cognac dans l'espace? On verra bien. Enfin bon, nos spationautes, eux, maintenant, amèneront leur bouteille quand ils iront quelque part.
Et très bien.
De son côté, la NASA.
La NASA. Partie agréable.
Ah, fais-nous rire.
Alors, la NASA... Ceux qui aiment bien les Américains, sortez vos oreilles.
La NASA a lancé la mission MAP. Alors, parce que chez les Américains, on donne des noms comme ça, MAP, COBE, parce que bon, MAP, ça veut dire Microwave Anisotropy Probe.
Anisotropy
Probe.
Ça a rien à voir avec
l'expérience
d'anisotropie.
C'est une sonde qui va aller au point de Lagrange L2. Alors déjà, il faut savoir que le point de Lagrange L2, c'est un endroit, il n'y a rien, hein, c'est paumé, c'est un endroit, mais c'est vachement connu.
C'est pas signalé, c'est mal signalé.
Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de direction, mais c'est le point de Lagrange L2.
C'est stable au niveau de la Terre.
Voilà, c'est tout simplement parce que c'est aux confluences de forces gravitationnelles et c'est un point qui, on est attiré par rien.
Perturbé par rien, et donc comme il va envoyer MAP, qui n'est plus ni moins qu'un gros thermomètre géant, et qu'est-ce qu'il va faire, le gros thermomètre, il va mesurer la température de l'univers.
Comme c'est original.
Voilà. Et il va essayer de faire en mieux ce qu'avait fait Kobe il y a quelques années, c'est-à-dire que alors que Kobe voyait des gros pâtés de toutes les couleurs, c'était très beau, MAP, il va essayer de faire des petits points de toutes les couleurs, mais ça va être pareil.
C'est comment on envoie de l'argent par les fenêtres.
Voilà. Tiens, autre chose, comment on envoie de l'argent par les fenêtres, il paraîtrait qu'on vient de découvrir une nouvelle météorite martienne sur Terre, d'ici à ce qu'il y ait de nouvelles missions vers Mars. D'ailleurs, on a 10 de nouvelles de prévues aux États-Unis, il n'y a pas de kilomètres.
Donc ça veut dire qu'il y en aurait 5 qui vont atterrir normalement, quoi.
5. Je t'en parlerai tout à l'heure.
D'accord.
Autre mission qui pose problème, Cassini-Huygens.
Pas rigoler, parce qu'il y a les Européens.
C'est le pompon. On vient de découvrir qu'on avait omis, sous-estimé, voire carrément oublié, que les ondes sonores, et donc les ondes radio, qui vont être émises par Huygens quand elle va se détacher de Cassini pour tomber vers Titan, du fait de déplacement de Huygens par rapport à Titan, vont subir un effet Doppler. eh ben, on a oublié de prévoir un compensateur d'effet Doppler sur Cassini, sur la sonde américaine. Donc, problème actuellement.
Elle est partie en 97, je crois, en direction du système de Saturne. Et donc, il y a la sonde en deux parties. Cassini, qui est la partie américaine, qui est en fait juste un moteur pour nous emmener.
C'est le tracteur.
C'est le tracteur. Et en fait, il y a la partie européenne qui est Huygens, qui lui est chargée de rentrer dans l'atmosphère de Titan pour faire des mesures.
Donc, c'est sur Cassini qu'ils ont oublié.
Le principe, c'est que, quand Cassini-Huygens devait arriver à proximité en orbite autour de Titan, elle devait. La sonde Huygens, qui est une sonde européenne, qui d'ailleurs a été présentée à Nantes, dans le cadre d'une exposition de la SAN.
Ah, tout à fait. En 98.
98.
À la Cité des Congrès.
Cette sonde doit se détacher de Cassini et plonger dans l'atmosphère de Titan, et là, traverser l'atmosphère, arriver en bas, faire chpong ou plouf.
Mais c'est ça, en fait.
C'est vachement important, parce qu'on va l'écouter.
Ce qui est pas faut pas rigoler, en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Ils ont mis un micro pour voir ce que la sonde, le bruit qu'elle va faire. Parce qu'on sait même pas sur la surface du temps si c'est gelé ou si c'est liquide. Donc en fait, c'est vrai que ça va vraiment faire plouch ou boum. Et c'est vraiment, même les scientifiques parlent de ça. C'est vraiment une partie importante.
Si on attend, je raconterai une histoire tout à l'heure.
Vas-y.
Mais donc la sonde, Huygens va plonger dans l'atmosphère de Titan et va, pendant sa traversée qui va durer quelques minutes, envoyer plein d'informations vers Cassini. Et Cassini doit servir d'antenne et renvoyer les informations vers la Terre.
Tout à fait.
Le seul problème, c'est que comme donc Huygens se déplacera par rapport à Cassini, dans l'état actuel des choses, les ondes envoyées par Huygens, comme elles ne seront pas compensées dans un décalage par Cassini, qui n'a pas du tout prévu que ce soit fait, elles arriveront et Cassini ne comprendra rien. Donc la sonde va plonger dans Titan actuellement, enfin c'était le cas encore il y a une semaine ou deux, et ça aurait plongé quoi. Et puis bon, un voyage de 7 ans vers Saturne, quoi, ça ne servait à rien, mais absolument à rien, puisqu'on n'a aucune information. Donc la solution, ça va être de retarder l'arrivée autour de Titan. Elle devait se mettre en orbite autour de Titan en novembre 2004, elle le fera en janvier 2005. Sept semaines plus tard, pour que Cassini puisse faire une orbite supplémentaire, enfin, même d'ailleurs, ils vont pas approcher du tout Titan de la même façon, elle va se mettre beaucoup plus haut au-dessus de l'atmosphère, et là, apparemment, l'antenne, compte tenu de l'altitude où elle sera par rapport à Titan, l'effet Doppler sera compensé de par la largeur du champ, quoi, du champ de réception.
D'accord.
Et on sera dans l'axe.
Mais bon, c'est. Et j'espère que ça va bien se passer. L'idéal aurait été de prévoir un compensateur, mais bon. On ne dira pas de qui vient l'erreur une fois de plus.
Les pauvres.
Pour quitter le monde des sondes, il faut quand même que je parle aussi de l'autre. La sonde dont on a un petit peu parlé, parce qu'elle avait décollé, c'était une bonne chose. 2001 Mars Odyssey.
Ah.
2001 Mars Odyssey. Et ben elle est en route vers Mars, et puis elle vient de finir sa première partie de vol en vitesse de croisière. Donc on vient lui faire faire sa première manœuvre d'approche. On a réorienté la sonde pour qu'elle s'approche vers Mars. Sur le commentaire, jusqu'ici, tout va bien. Parce que, bon, après, des sondes martiennes, ça risque d'être viral gravier, ça risque d'être, tiens, c'est des miles, ah non, c'est des mètres, bon, on verra bien.
Vous êtes dur, écoutez.
Non, c'est mal.
Il faut laisser l'homme de Néandertal évoluer.
En parlant de Mars, Hubble vient de la photographier sous toutes ses coutures, mais alors toutes les coutures. Ils ont profité de rapprochement planétaire.
Ils ont fait compliquer la SAN, parce que la SAN est partie.
Et les images sont assez splendides. Mais justement, je voulais dire qu'il n'y a pas que les professionnels qui s'en occupent de Mars. Il y a notre petite équipe qui, elle, parce que les professionnels vont dans leur laboratoire, ils tapotent sur ordinateur, et puis, eh ben, ils pointent le gros télescope Hubble, et puis, hop, on photographie Mars. Chez nous, non. On y va, on a froid, on enlève la neige, on monte le sac à dos, et après, on photographie Mars. Et on ramène des photos. Donc moi, je dis, à quand le concours entre la NASA et la SAN?
En fait, la SAN compense l'incapacité des Américains à envoyer des sondes pour cartographier la planète. Donc, on est en train de prendre des photos. Donc, il y aurait qu'une équipe qui a pris des photos de la planète. Donc, on les aura prochainement sur Internet.
Tout à fait. Maintenant, quelques photos de l'ISS, qui est, rappelons-le...
La Station Spatiale Internationale.
Voilà. International Space Station.
Oui, en fait, les Américains, le cerveau en anglais, il faut inverser les sigles.
Ça avait quand même plus de classe, le grec et le latin.
Voilà.
Le yaourt.
Mashed potatoes.
Alors, là-haut, il y a des problèmes de bras manipulateurs. Mais alors là, les bras manipulateurs sur la station spatiale, ça va pas du tout. D'abord, celui de la navette Atlantis marche plus. Enfin, ils avaient des problèmes manipulés avec la station spatiale. Alors, la navette décolle plus. Enfin, elle va décoller dans 15 jours, mais ils l'ont laissé au sol pendant un temps fou parce qu'il fallait réparer. Mais mieux que ça, sur l'ISS, il y a les travaux. Alors, on déplace les modules, on installe des trucs. On fait des tests avec le bras manipulateur. Et bien, ils ont trouvé le moyen de faire un incident de chantier. Le bras manipulateur, il a tapé dans un module de la station.
Non.
Si.
On va tenir le siècle, mais ils pouvaient rigoler des Russes. Hein.
Donc, il n'y a pas de dégâts. Mais bon, les Russes, quand ils allument leur station, eux, ils envoient un module dedans. Eux, un bras manipulateur, c'est aussi simple.
Ah oui, d'accord.
Enfin bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et les missions prévues ne sont pas concernées sont pas mises en danger, entre autres celle de Claudie André Dehaene.
Non, Claudie Henirey.
Henirey, mais bon.
Maintenant qu'elle est mariée. Hein.
Voilà, Henirey. Qui va s'envoler le 21 octobre.
Ça date pas d'hier, ils ont fait des expériences de fécondation.
Dans l'espace.
Non, pas in vitro, in vivo dans l'espace.
C'est faux parce qu'ils sont jamais partis ensemble.
D'abord.
Non, c'est vrai.
Bah non, parce qu'en fait, Claudie
je
était là.
Je suis ignorant, je n'écoute pas cette alternance. Potin,
je crois que Claudie était la doublure de. C'est Jean-Paul Henirey.
Non, elle était la doublure de Léopold Hert.
La doublure, donc, en matière spationaute, la doublure, ça veut pas dire celui qui joue à la place de l'acteur de vedette, hein. C'est celui qui part pas.
C'est celui qui fait les cascades.
C'est, voilà. La doublure, c'est celui qui a tout l'entraînement pareil, qui swatting, mais qui lui reste au sol.
Voilà. Tout l'entraînement souvent, pareil, c'est très fait
français
aussi.
C'est de moi, mais c'est du Breuil, de fatigué, de
fin
de
journée. C'est vrai qu'au niveau français, en fait, les doublures,
continuer. Toi, t'es
continuer avec
fou Breuil, parler.
Moi, parler. Bien. Donc, Claudie Henirey va décoller le 21 octobre dans un Soyouz depuis Baïkonour. Vous allez me dire, c'est normal, c'est classique. Ben, ça va peut-être plus l'être pendant très longtemps, parce que les Soyouz, avant longtemps, décolleront non plus de Baïkonour, mais de Kourou, de chez nous. Alors pourquoi ? Ça, c'est encore un coup des Américains. Parce que les Américains, le monsieur George W., pas le citer, a coupé les crédits de la station spatiale. Il a dit, c'est mieux de faire garder des étoiles, c'est mieux de faire plein de choses, donner des sous aux vendeurs de pétrole, mais pas à la station spatiale. Donc, eh bien, comme...
Mais il a toujours pas compris.
Comme il a coupé les crédits de la station spatiale, mais le programme, entre autres, la construction de la station est retardée, le module européen qui dépend de l'installation du module américain ne peut pas être installé, enfin bon, tout ça. Donc les Européens, pour pouvoir garder un peu la mainmise sur et leur place dans le programme, ont trouvé une solution que les Russes ont aussi acceptée, c'est de proposer que les vaisseaux Soyouz décollent depuis Kourou, qui est quand même assez idéalement placé pour un lancement vers la station spatiale, dans sa position où elle est près de l'équateur. C'est vraiment idéal, ça coûtera moins cher. Ce sera donc des fusées russes, des Semyorka, qui décolleront de Kourou avec des Soyouz. Et Ariane 5, elle, enverra les modules quand les Américains ont mis les leurs.
Les pauvres.
Enfin bon, tout ça.
Le pire, c'est qu'on cherche même pas, hein, les conneries qu'ils font, c'est qu'on les trouve tout seul.
Hein, c'est on garde une simple revue de presse, c'est même pas.
L'erreur ne consiste qu'en ce qu'elle n'est point reconnue comme telle, disait Descartes.
Tout à fait.
Il n'est même pas nécessaire de faire un tri, de dire spécial bêtise américaine, elles viennent toutes seules.
Le bêtisier se remplit à notre insu.
Enfin bon, je terminerai, et je pourrais pas ne pas en parler, en traitant de l'événement du mois quand même. L'événement, la première éclipse totale de soleil du siècle.
Tout à fait.
Qui a eu lieu le jour du solstice
d'été.
D'hiver.
En France. D'hiver sur place.
Dans l'hémisphère sud.
D'hiver dans l'hémisphère sud, puisqu'elle était visible uniquement dans l'hémisphère sud, dans le sud, au sud de l'Afrique. Et là, donc, il y en a quelques-uns qui ont été, dont un adhérent de la SAN, qui a bien de la chance d'y être.
Qui a vécu les quatre saisons, d'ailleurs, en deux jours.
Voilà.
Qui est parti au printemps, avant le 21 juin, qu'il est
arrivé en automne.
Il a passé l'été.
L'hiver,
saucisse d'hiver, et puis il est revenu, c'était l'été.
Donc quatre saisons d'une semaine, c'était très bien.
Voilà.
Enfin bon, tout ça pour dire qu'une fois de plus, obéissant aux lois immuables, mais alors là, immuables, c'est vachement bien d'avoir programmé une éclipse samedi après-midi, un truc comme ça, on n'y est pour rien, ça marche tout seul. La lune est venue cacher le soleil, et une fois de plus, il y a quelques privilégiés qui ont eu le droit de voir le plus beau spectacle du monde, quand même, qui est une éclipse de soleil.
Je pense, un épisode.
C'est dommage, j'étais dans les pays noirs, parce que la nuit, pendant une éclipse, c'est pas marrant. Hein, on les voit pas. C'est scabreux.
Voilà, mon pauvre Daniel du
Mais au moins, il fait beau, parce que nous, quand on y va, il pleut.
Voilà. La petite blague que tu voulais sortir avant qu'on conclue, parce qu'on est pire qu'en retard.
Alors oui, parce que bon, ça sera rapide, parce que c'est l'histoire d'un étudiant.
Maintenant, on va finir les émissions sur une blague.
Non, attention, c'est pas...
Vas-y.
C'est, tu verras, quand je te dirai qui c'est. Donc c'est un étudiant à qui son examinateur, il avait une question d'examen, comment allez-vous mesurer la hauteur d'un immeuble avec un baromètre ? Donc question classique, on veut que l'étudiant réponde pression atmosphérique et patati. L'étudiant en question, il voulait... répondre tout sauf ça. Alors il dit, je prends le baromètre, puis je le reporte autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que j'arrive en haut de l'immeuble. Connaissant la longueur du baromètre, je connais la hauteur de l'immeuble.
Génial.
Alors le prof dit, c'est pas ce que je vous demandais. Alors l'étudiant dit, j'ai une autre solution à ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord, je prends une ficelle, j'attache le baromètre à la ficelle, je monte en haut de l'immeuble, et puis je déroule la ficelle et je mesure la longueur de l'immeuble. le prof de plus en plus furax. Non, non, non. Alors l'étudiant, vous avez une autre solution. Alors l'étudiant, oui, voilà, je monte en haut de l'immeuble, je fais tomber le baromètre, je mesure la longueur de la chute, le temps, et je, avec la formule de Galilée, je calcule la hauteur de l'immeuble. Alors le prof de plus en plus furax, et puis à la fin, l'étudiant sort encore une dernière, vous pensez pas qu'il y avait encore une dernière méthode, il dit voilà, c'est un jour de soleil, je mets le baromètre, je mesure l'ombre portée par le baromètre par terre, et je mesure celle de l'immeuble, en appliquant les triangles semblables, j'ai la hauteur de l'immeuble.
Génial.
L'étudiant, le prof furieux a fini quand même par... Alors l'étudiant, il paraît qu'il y a une polémique, d'ailleurs l'étudiant, le prof voulait lui mettre zéro, et l'étudiant a porté plainte, il a eu 20 sur 20 évidemment... vu toutes les solutions qu'ils proposèrent, l'étudiant s'appelait Niels Bohr.
Ah, d'accord.
Et l'examinateur s'appelait Lord Rutherford. Comme quoi, l'histoire des sciences est émaillée de vraies blagues. Alors, c'est très amusant. Alors, j'en ai une dernière quand même, parce que celle-là, elle est c'est de Paul Langevin, qui passant son épreuve d'oral à Polytechnique, il y a l'examinateur qui, pour une raison ou une autre, était furax et fait au préparateur. Allez donc me chercher une botte de foin pour le candidat. Et c'est là que Paul Langevin lui fait à au préparateur, apportez-en deux, nous dînons ensemble. Voilà. C'était là. Les joyeux propos de la science.
Tout à fait. Merci Daniel, merci Fabrice. C'était l'émission Pulsane, l'avant-dernière de la saison. La prochaine, c'est le 23 juillet, lundi dans deux semaines. Nous vous parlerons des calendriers. Donc, notamment l'interview de François Swager.
Belle conclusion pour l'année.
Belle conclusion pour l'année. On conclura sur cette partie. On était en direct, on est en retard, même beaucoup en retard. De toute manière, on vous l'a fait tout à l'heure.
On n'a jamais fait ça.
Non, on n'a jamais fait ça parce qu'il y avait toujours quelques gens derrière nous, donc on était toujours sérieux au niveau du temps.
Par rapport au calendrier, ceux qui ne croient pas à la semaine des 4 jeudis, écoutez Pulsane, elle existe.
Tout à fait. C'est vrai que la semaine des 4 jeudis a existé, c'est pour ça qu'on en parle.
Oui.
Tout à fait.